Grâce à vos dons, ce podcast est en libre accès. Soutenez-vous. Soutenez-nous au poste.fr.
Bonjour et bienvenue à tous dans ce sixième déjà épisode de Bouffe de là. Je suis Nora Boisoni, toujours, j'ai pas changé de nom. Bonjour à tous les gens qui nous suivent sur le chat. Bonjour aux postiens, aux postiennes. N'hésitez pas à réagir comme d'habitude et à poser vos questions. Et n'oubliez pas non plus... Évidemment, qu'est-ce qu'on n'oublie pas? On n'oublie pas de s'adonner, adonnez-vous au poste pour qu'on puisse continuer à vous proposer des interviews et des vidéos de qualité. Parce que, comme je le dis à chaque fois, l'indépendance, contrairement à la gentillesse, ça n'est pas gratuit. Alors aujourd'hui, on profite de la grand-messe annuelle où les politiques viennent tapoter le cul d'êtres vivants qui n'ont rien demandé à personne. Et non, je ne parle pas du Noël de l'Élysée, mais du salon de l'agriculture. On va donc discuter de celles et ceux qui nous nourrissent, mais sans parvenir à joindre les deux bouts, les paysans et paysannes. Je reçois pour l'occasion Thomas Gibert, bonjour.
Bonjour.
Ça va, pas trop fatigué?
Non, ça va, ça va.
Je demande ça, pas trop fatigué, parce que Thomas, t'as déjà été convoqué au poste, on a encore des questions à te poser, mais tu es maraîcher, l'un des gérants de la ferme collective de la Tournerie à Coussac-Bonneval en Haute-Vienne. Qu'est-ce que tu cultives d'ailleurs là-bas?
On est en maraîchage diversifié, donc on a une trentaine de légumes différents pour avoir un peu de la diversité tout au long de l'année. Quoi.
Ok, c'est quoi ton légume préféré?
La carotte.
Ah, c'est bon la carotte, c'est versatile la carotte. Et d'où ma question sur la fatigue, tu es aussi secrétaire national de la Confédération Paysanne, donc là, ton agenda ces derniers jours, il était...
Assez archi-blindé, ouais. C'est le moment un peu rencontre politicard, etc., pendant le salon de l'agriculture, où on enchaîne un peu les rendez-vous et tout, donc ouais, c'était costaud, mais c'est bien d'y être.
Bah écoute, merci de donner un peu de ton énergie au poste. On va reparler évidemment de la Conf Paysanne, qui est donc un des trois syndicats agricoles en France. Et je reçois aussi Jacques Capla. Bonjour Jacques.
Bonjour, je vais montrer ma tête pour les spectateurs.
Voilà, comme ça les gens voient. C'est bon, tout le monde a vu Jacques. Jacques, merci beaucoup d'être venu. D'où de Bretagne
Du nord de l'Ille-et-Vilaine.
Ok, très bien. Donc vous êtes agronome et ethnologue, fils de paysan. Vous êtes coordinateur agriculture et alimentation pour l'asso Agir pour l'environnement. Vous avez aussi été conseiller agricole en chambre d'agriculture. On parlera des chambres d'agriculture puisque c'est aussi l'actu du moment. Vous avez participé à la création du réseau Semences Paysannes et vous avez écrit de nombreux livres sur le système agricole et l'agroécologie. Et le dernier vient tout juste de paraître aux éditions Rue d'Échiquier, je le montre. Il s'appelle Agriculture industrielle, on arrête tout et on réfléchit et je vous le recommande chaudement. Voilà, un livre petit dans sa forme mais dense dans son contenu. Voilà. Alors, à part si vous venez d'être décryogénisé, vous n'êtes pas sans savoir que les agriculteuristes sont en colère et il y a de quoi. Difficultés d'installation, précarité, subventions inéquitables, libre-échange, spéculation, mainmise des syndicats pro-agriculture intensive. On va donc commencer avec des chiffres. Vous savez, j'aime bien commencer avec un peu une avalanche de chiffres. Mais là, c'est pour avoir un petit panorama de la situation qui est à peu près catastrophique. Alors, d'après le recensement de 2020, la superficie agricole utile occupe la moitié du territoire hexagonal. Les grandes cultures et l'élevage bovin comptant pour les deux tiers. La France a perdu plus de 100 000 exploitations agricoles en 10 ans. Je sais que vous n'aimez pas trop le terme exploitation, on en parlera aussi de ce terme qui est intéressant, vous en parlez dans votre bouquin. Donc la France compte aujourd'hui à peu près, donc, je ne parle pas que la France hexagonale, je parle France entière avec les Outre-mer, à peu près 416 000 exploitations agricoles, c'est 4 fois moins qu'en 1970. Les grandes exploitations s'agrandissent et les petites rabotissent. La taille moyenne en France c'est 69 hectares. Pour comparer, le maraîchage c'est 11 hectares en moyenne, 18 pour les fruits, 83 pour les grandes cultures et 93 pour les bovins. Bah oui, ça prend de la place, beaucoup de place. 5% des plus grandes exploitations, donc supérieures à 200 hectares, occupent un quart de la surface agricole utile, donc c'est quand même squatté par des grandes exploitations. L'agriculture française emploie en 2020 813 000 permanents, et c'est un recul de 11% en 10 ans. L'agriculture en France, c'est 2,7% de l'emploi total. Pour comparer, en 2000, il y avait 1 million de travailleurs, travailleuses permanentes dans le secteur. Concernant l'âge, les exploitants agricoles ont en moyenne 51,7 ans et la moitié à 55 ans et plus. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? il n'y a que 14% de moins de 40 ans, donc d'ici 10 ans, un agriculteur sur 3 partira à la retraite. Et on va voir au début de cette émission pourquoi c'est compliqué justement d'avoir des personnes qui s'installent et qui reprennent les endroits où on cultive des choses. Côté sous, gros morceau aussi, en 2020, 16% des ménages agricoles vivent sous le seuil de pauvreté contre 14% dans l'ensemble de la population. Sont principalement touchés les maraîchers, les éleveurs ovins, caprins et de bovins à viande, sachant que seul un tiers du revenu disponible des paysans, paysannes provient de leur activité. Et oui, le reste, c'est des subventions, activités annexes et revenus du conjoint, s'il y a conjoint ou conjointe. Et puis, un avant-dernier chiffre dramatique, un agriculteur se suicide tous les deux jours en France. Et pour finir avec cette avalanche de chiffres qui ne donne pas du tout le moral, hein, vraiment, bon vendredi soir, on rappelle que notre pays est le premier producteur agricole européen avec une valeur de production de 88,2 milliards d'euros en 2022. Mais vous devez être super riche, dis donc Thomas, avec tout cet argent. Est-ce qu'il va dans votre poche? Non, je sais très bien que non. Alors, bonjour Glycine, bonjour Dadao, bonjour tout le monde. N'hésitez pas à réagir et poser vos questions. On va commencer en parlant du foncier. Évidemment, parce que sans terre, il n'y a pas d'agriculture ou il n'y a pas d'élevage possible. Et c'est chaque année plus difficile de trouver du foncier ou de s'installer. Pour quelles raisons c'est de plus en plus compliqué, Thomas?
La question du foncier, elle est assez complexe, mais effectivement, il y a de plus en plus de difficultés pour trouver du foncier, parce que tout simplement aussi, il y a les aides publiques qui sont extrêmement liées à la surface, notamment les aides PAC qui sont vraiment beaucoup liées
à la surface. Politique agricole commune.
À la politique. Et du coup, beaucoup de paysans, en fait, quand une ferme s'arrête, souvent, il y a des arrangements qui se font avec les voisins et du coup, c'est difficile d'avoir accès aussi aux informations parce que beaucoup de choses se passent en sous-main. Mais après, ça, c'est un des premiers volets. Mais peut-être le volet le plus important, c'est plus une question d'outils de régulation du foncier. Mais il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, en France, on est quand même un des pays en Europe qui a les meilleurs outils de régulation du foncier. Et c'est grâce à ça qu'on a pu freiner un peu l'accaparement du foncier et aussi les phénomènes de spéculation foncière par rapport au reste des autres pays en Europe.
C'est quoi ces outils?
C'est ce qu'on appelle le contrôle des structures. Il y a notamment l'outil SAFER qui va régir un peu à qui va aller le terrain qui se vend. Et aussi toute la question de la CDOA avec les autorisations d'exploiter qui là, gère plutôt la location du foncier et qui du coup va s'appuyer sur des schémas régionaux directeurs qui vont permettre de normalement favoriser l'installation.
Donc par exemple la SAFER, vous allez réagir après Jacques, la SAFER elle est mise au courant qu'un terrain est en vente par exemple. Et c'est elle qui décide à qui ce terrain va aller?
Alors, dans les faits, il y a des outils de régulation qui permettent un peu ça, sauf qu'il y a beaucoup de moyens de les contourner. Notamment, il y a le phénomène sociétaire, qu'on appelle le phénomène sociétaire, avec certains agri-managers qui ont trouvé bien des solutions de contourner ces règles communes d'attribution du foncier et qui font en fait des montages sociétaires un peu obscurs qui leur permettent d'éviter ces règles. Et c'est notamment le cas de M. Arnaud Rousseau, hein, président de la FNSEA, qui a la tête de 700 hectares.
Une ferme Donc, de 700 hectares. Le syndicat majoritaire en France aujourd'hui, la FNSEA.
Oui, et qui, du coup, lui, a utilisé ces montages sociétaires pour outrepasser en fait ces règles communes d'attribution du foncier et donc est passé devant des projets d'installation. Donc il faut se dire aussi que donc, les dirigeants du syndicat majoritaire ne sont pas vraiment dans une optique une vraie volonté de réguler le foncier et permettre de favoriser l'installation plutôt que l'agrandissement. Et je pense que sur le foncier, il y a vraiment besoin d'améliorer ces outils de régulation et aussi protéger le foncier aussi de l'artificialisation. D'ailleurs, j'en profite pour parler un peu d'une petite victoire qu'on a obtenue avec pas mal d'organisations l'arrêt des travaux de l'A69 qui est arrivé hier. Et du coup, il y a vraiment ce phénomène de préservation du foncier et aussi vraiment mettre en lumière aussi ce phénomène d'accaparement et de renforcement des outils de régulation. Et je voulais dire quand même aussi une chose, c'est qu'à la CONF, à la Confédération Paysanne, nous, notre objectif, c'est pas c'est vraiment de séparer la propriété foncière de son usage. Aujourd'hui, il y a encore la possibilité aux propriétaires de vraiment choisir à qui ils vont louer les terres. Et ça, pour nous, c'est quelque chose de problématique et qui comporte vraiment un frein, parce que c'est à ce moment-là qu'en fait le terrain va plutôt aller aux voisins qui sont déjà en lien avec le propriétaire, etc. Et donc nous, on est extrêmement attachés à la possibilité de louer, au statut du fermage qui a été une grande victoire du CNR au moment de l'après-guerre, qui est un statut qui permet vraiment de protéger les fermiers qui sont en location de la propriété, mais des propriétaires. Mais il faut pouvoir renforcer ce statut-là pour vraiment déconnecter l'usage de la propriété.
Pour que ce soit plus équitable, quoi. Jacques.
Oui, ce que tu disais à la fin va dans le sens de ce que je voulais faire remarquer, c'est qu'en fait, la SAFER ne gère qu'une
donc,
petite...
Donc SAFER, Société d'aménagement foncé et l'établissement rural.
Voilà. Qui, dans l'imaginaire collectif, est la structure qui gère l'attribution des terres. En fait, la SAFER gère les ventes. Mais l'essentiel des transferts de fermes se fait par des, comme tu viens de le dire, par des baux, par des locations. Et les propriétaires ne changent pas forcément.
Ah, donc si on loue, en fait, la SAFER n'a rien à...
Non. Et là, par contre, c'est là qu'intervient la CDOA, la Commission départementale d'orientation de l'agriculture, qui va décider de donner des autorisations d'exploiter. C'est-à-dire que le propriétaire peut louer à qui il veut, à condition que cette personne ait obtenu le feu vert de la structure, de cette commission, qui va donner l'autorisation d'exploiter. Mm-hmm. Donc c'est très intéressant, parce que ça montre à la fois le fonctionnement de la SAFER et le fonctionnement de la CDOA, montre bien le problème, c'est que oui, on a un système de contrôle des structures en France qui pourrait être pas mal, mais il y a un très très grave problème de gouvernance qui fait que derrière, il est complètement dévoyé. Moi, j'ai connu, quand je travaillais en chambre d'agriculture et ensuite quand je travaillais dans un groupe en bio, en fait, surtout, c'est à cette époque-là où j'ai siégé à la CDOA du département de la Nièvre et j'ai pu voir comment les choses se passaient, c'est concernant. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des règles normalement de priorité. Un jeune va avoir priorité sur... Enfin, une installation va avoir priorité sur un agrandissement. Une installation en bio va avoir priorité sur une installation en conventionnel. Enfin, il y a un certain nombre de règles comme ça. Mais en réalité, quand il y a quelques gros potentats locaux qui lorgnent sur cette ferme qui s'en va, sur les terres de cette ferme, la CDOA va donner l'autorisation d'exploiter à 2 ou 3 personnes. Donc, après, les propriétaires choisissent. Au lieu de dire on le donne uniquement à celui qui a, ou à celle qui a priorité dans l'ordre théorique, il le donne à 2 ou 3 personnes. Il respecte l'ordre de priorité, mais il donne la possibilité à ce que celui qui arrive en troisième dans l'ordre de priorité soit privilégié par le propriétaire.
C'est pas illégal, ça ? Ils ont juste à désigner une personne ? Ah oui, d'accord.
Ils ont droit. Et les SAFER, pareil, les SAFER vont donner leur avis. Moi, j'ai connu à l'époque où je travaillais dans la Nièvre un canton où, en fait, le comité cantonal SAFER avait pris à l'unanimité, moins une voix, position pour que les terres aillent à une installation nouvelle. Et le comité départemental a décidé de l'attribuer à une pseudo-installation en forme sociétaire avec son père, fils du président de la section bovine de la FDSEA du département. Et évidemment, c'est lui qui a eu le.
Bah oui, parce que pourquoi pas. Hein,
alors bon, là, ce jour-là.
Le népotisme agricole. Voilà,
tous les membres du comité cantonal ont démissionné de la FDSEA ce jour-là. Donc il y a quand même parfois des paysans qui disent il y en a marre. Mais voilà comment ça se passe.
On va parler de la gouvernance juste après, hein, mais j'ai encore 2 questions pour vous. Comment est-ce que justement on protège l'accès au foncier et comment est-ce qu'on favorise justement l'installation et la succession, Thomas ?
Protéger l'accès au foncier, clairement, c'est renforcer les outils de régulation, un peu tout ce qu'on a dit par rapport à la SAFER et par rapport à la CDOA pour la location. Après, favoriser l'installation... pour nous, c'est clair que ça ne se fera pas sans un revenu décent. Aujourd'hui, qui a envie de travailler 60, 70, 80 heures semaine pour quelques centaines d'euros ? En fait, c'est ça le nœud du problème. Et c'est ça qu'on porte à la conf depuis, depuis bien longtemps maintenant, mais notamment pendant la crise agricole. On essaie vraiment de remettre les choses au clair sur notre revendication principale, qui est la question du revenu, puisqu'il n'y aura pas d'installation sans revenu, il n'y aura pas de transition agricole sans revenu, puisque la question des normes environnementales, etc., elle est sur le devant de la scène, puisqu'en fait, ça s'ajoute à une précarité qui est déjà extrêmement compliquée sur les fermes. Et donc, c'est pour ça que nous, on bataille pour un prix rémunérateur de nos productions. Quoi. Et la question de l'installation, elle se fera pas sans revenu. Et bien sûr, après, il y a toutes les questions de formation, etc. Mais je pense que aussi, l'envie de s'installer, hein, elle est présente chez énormément de jeunes parce que, mine de rien, on a un métier qui a énormément de sens et qui est extrêmement important dans la société.
C'est essentiel, on peut dire.
Et qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a la nouvelle génération est en quête de sens aussi dans son travail, etc. Et que c'est, mine de rien, un travail qui nous permet d'avoir un cadre de vie qui est super, super agréable, etc. Sauf qu'aujourd'hui, la rémunération est tellement terrifiante que personne ne veut s'installer, quoi. Et il faut quand même se rendre compte qu'on est presque dans des situations parfois d'esclavagisme, quoi, sur des fermes. On est un peu esclave de ce boulot qui nous tue à petit feu, quoi. Et alors même qu'on a quand même une importance quand même capitale dans la société, et du coup c'est vrai que ça pose question un peu sur qu'est-ce qu'est notre société qui rémunère si mal, en fait, ceux qui nourrissent tout le monde.
Oui, c'est toute la question aussi de la rémunération du travail, de ceux et celles qui sont indispensables à la société et qui sont, en fait, les métiers souvent les moins bien rémunérés, les plus pénibles, etc. etc. Sur l'installation, la succession, la formation, l'accompagnement, il y a des solutions qui pourraient être envisageables, qui pourraient être davantage développées ou qui existent déjà, Jacques ?
Oui, pour moi, oui, il y en a quand même. Il pourrait y en avoir si la loi d'orientation agricole, qui est devenue la loi pour la souveraineté alimentaire, un rallonge complètement fumeux, qui dévoie les termes d'ailleurs, mais au départ, c'était une loi qui était censée travailler au renouvellement des générations, puisqu'il y a une urgence avec, vous l'avez dit, on voit l'âge des agriculteurs, on a un besoin de renouvellement urgent. Et en fait, cette loi ne prévoit rien du tout là-dessus, et alors qu'il y aurait beaucoup de choses à faire, par exemple, il y a des réseaux d'ailleurs qui incluent des structures proches de la Confédération paysanne, comme les ADAR, les associations pour la défense de l'emploi agricole et rural, qui sont en quelque sorte des organismes de formation et d'accompagnement qui sont dans la lignée de la Confédération paysanne. Et donc, il y a des vivres des projets. Parce qu'en fait, il y a une chose qui est importante à noter, c'est qu'il n'y a pas de crise des vocations, en fait, en France. Il y a beaucoup de... Pour chaque ferme pour chaque agriculteur ou agricultrice qui part à la retraite, il y a plus d'une personne qui est prête à reprendre. Le problème, c'est que alors, d'une part, beaucoup n'arrivent pas au bout pour des raisons de qualification, pour des raisons d'accès aux aides, pour des raisons surtout d'accès aux prêts, d'accès aux moyens financiers, aux moyens de production, d'accès aux fonciers, évidemment, qui est le premier plan, le premier point de blocage. Mais il y a aussi des projets qui n'aboutissent pas parce que les projets des personnes qui veulent s'installer ne correspondent pas forcément aux fermes qui sont à reprendre. Justement parce que les fermes qui sont à reprendre, elles sont dans une histoire patrimoniale où on travaillait tous les week-ends et on prenait jamais de vacances, et dans un contexte économique dont je pense qu'il faudra qu'on reparle ensuite, parce que pour moi, il ne suffit pas de dire qu'il faut mieux payer les agriculteurs, il faut comprendre, c'est un peu ce que je fais dans mon bouquin, comprendre pourquoi structurellement, ouais, tout est fait pour qu'ils ne soient pas rémunérés. Et donc, tant qu'on ne s'attaque pas à ça, beaucoup de projets ne pourront pas arriver à être viables dans l'état actuel des choses. Et donc, il faut arriver à aider les cédants, comme on dit, c'est-à-dire ceux qui s'en vont à la retraite, à lâcher un peu prise quand ils veulent transmettre leur ferme, parce que c'est parfois pas si simple, à accepter qu'elle soit complètement transformée, et puis aux gens qui ont des projets, à mieux construire leurs projets par rapport à la réalité d'une ferme. Et tout ce travail-là, en fait, aujourd'hui, il ne peut être fait que dans la diversité, que dans l'innovation, que dans un foisonnement créatif. Et ça, j'ai travaillé en chambre d'agriculture, je peux le dire, la logique chambre d'agriculture, qui est une logique de modèle unique, de pensée unique de l'agriculture.
Mais qui est très dogmatique. Il n'y a qu'une agriculture possible, viable et souhaitable et désirable.
Malgré toute la bonne volonté de plein de gens qui y travaillent, ils n'ont pas les moyens créatifs, les moyens intellectuels, les moyens humains aussi de mise en réseau des savoirs paysans pour accompagner ces projets-là.
Oui, et puis alors on parlait aussi de l'agrandissement des exploitations, donc c'est de plus en plus cher, j'imagine, parce qu'il y a de moins en moins de petites exploitations, donc en fait, déjà pour s'installer, il y a un énorme frein en termes pécuniaires.
C'est un truc qui est très intéressant, c'est quand j'étais en école d'agronomie il y a plus de 30 ans maintenant, on nous disait, et ça a mis du temps à arriver en fait, on nous disait déjà à l'époque, bientôt, les fermes seront, les exploitations, comme on dit, seront tellement grosses, tellement importantes, enfin, un poids de capital tellement important, que des particuliers ne pourront plus les racheter, et ça sera racheté par des banques, des multinationales, etc.
Des entreprises, etc.
Ça a pris un peu plus de temps que ce qu'on pensait, mais c'est en train d'arriver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les plus petites fermes n'existent quasiment plus, donc les gens qui partent à la retraite aujourd'hui, même s'ils ne gagnent pas bien leur vie, etc., ils ont un capital d'exploitation qui est énorme. Et à moins d'être fils unique ou fille unique et d'avoir aucune part à racheter à des frères et sœurs, aujourd'hui, c'est quasiment impossible de reprendre ces fermes.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un projet politique en face d'une autre qui porte une agriculture sans paysans, sans paysannes. Et du coup, en fait, ils mettent à peu près tout en œuvre pour que ça puisse advenir, quoi. Et donc, nous, à la Conf, c'est pour ça qu'on cible vraiment sur l'installation, sur... Enfin, voilà, notre slogan pour des paysans et des paysannes nombreuses, c'est vraiment notre cœur de métier, puisque les gens, on pense que l'agriculture paysanne ne peut se faire qu'avec des paysans et des paysannes nombreuses, et qu'on est la seule réponse crédible aussi aux problématiques sociales et environnementales de notre société actuelle, quoi. Donc aujourd'hui, il y a vraiment cette bataille aussi pour aussi mettre en lumière ce projet que ce syndicat majoritaire main dans la main avec l'agro-industrie qui ont en fait des intérêts, les dirigeants de la FNSEA, ils ont clairement des intérêts à ce que cette industrialisation continue, et on le voit bien puisque par exemple là on a fêté les 1 an de l'annonce de Macron sur les prix planchers lors du dernier salon de l'agriculture. C'était une proposition qu'on avait fortement portée avec la Conf, et du coup lors le dernier salon de l'agriculture, Macron a dit allez banco, on va sur un prix minimum pour les productions en dessous duquel on ne peut pas descendre. Parce que voilà, ça suffit la vente à perte. On est le seul secteur en France, l'agriculture est le seul secteur en France où c'est possible de faire de la vente à perte, etc. Il faut savoir que les dirigeants de la FNSEA ont freiné des cas de fer par rapport à cette proposition. Et nous, enfin voilà, notre analyse qu'on a, c'est que clairement, ceux qui sont à la tête de la FNSEA, ils ont des intérêts dans la spéculation des matières premières agricoles, donc pour faire du trading sur le marché international.
Oui, parce qu'on rappelle que les grandes cultures, quand même, c'est principalement leur fonds de commerce, quoi. Les céréales, etc.
Il y a d'énormes intérêts à exporter tout un tas de céréales. Et donc, si on met un prix minimum, ça veut dire qu'on peut plus se battre sur le marché international à ce moment-là. Donc évidemment, la FNSEA fait tout pour empêcher que ce prix minimum advienne, alors même que c'est clairement la solution qui pourrait permettre d'arrêter cette précarité qui est complètement absurde des paysans et des paysannes.
On va en reparler après de cet aspect économique, revenu paysan et revenu prix plancher. Mais je voudrais qu'on revienne d'abord, parce qu'on en parlait, sur les élections des chambres d'agriculture. Alors on en a un petit peu parlé juste avant. Donc en janvier dernier, il y a eu les élections des chambres d'agriculture, c'est tous les 6 ans, c'est ça ? Donc départementales et régionales, elles ont un budget annuel de 800 millions d'euros, dont 2/3 d'argent public. Alors c'est quoi déjà le rôle d'une chambre d'agriculture ? Je ne sais pas qui veut répondre en premier, peut-être vous Jacques, puisque vous avez été en chambre d'agriculture. Qu'est-ce que c'est le rôle, grosso modo ?
Les paysans le connaissent de façon encore plus directe, mais c'est en fait la structure qui est au cœur de ce qu'on appelle la co-gestion de l'agriculture en France. C'est quelque chose qui est très mal connu du grand public. C'est la seule profession, à ma connaissance, qui est une véritable co-gestion. Les chambres consulaires classiques n'ont pas un rôle aussi important dans la décision et dans l'accompagnement de l'ensemble des politiques sur le terrain. Et en fait, cette co-gestion par les chambres d'agriculture, ça veut dire que le syndicat qui gagne majoritairement, enfin, qui gagne la chambre d'agriculture, les notions de majorité peuvent parfois être limites avec le système d'élection qui est adopté, va décider, en fait, de comment... vont être attribués, enfin comment, quelles vont être les priorités de développement dans le département.
C'est donc très, orienter très les politiques locales, régionales, etc.
Très technique, ça peut être parfois, alors il y a tout un tas de services publics, on va dire, que rendent les chambres d'agriculture, qui sont relativement transversales et relativement neutres, mais c'est jamais complètement neutre. Et donc ils vont évidemment fixer un cap pour le département, pour la région, donc forcément c'est très politique quand même. Ils vont décider d'allouer des moyens sur tel ou tel type de production, tel ou tel évolution de la production, etc. Et puis, ils gèrent aussi énormément de dispositifs d'aide, que ce soit quand il y a des catastrophes naturelles, que ce soit même certaines aides publiques classiques, de subventions, les installations, etc. Et donc, à ce niveau-là, ils ont un pouvoir extrêmement puissant d'orienter, de décider, ben, vous on donne, vous on donne pas.
C'est même plus qu'un pouvoir puissant, j'ai l'impression que tout se décide là et que si on n'y est pas, bon courage.
Ben, nous, on parle plutôt d'élections professionnelles parce que justement, on pense que ça dépasse bien, ça va bien au-delà du simple outil chambre d'agriculture, ces élections professionnelles. Ça permet quand même de comptabiliser aussi combien voilà, notre projet politique rassemble de paysans. Et du coup, c'est vrai que quand on va négocier avec les institutions, c'est sûr que si on fait 20 ou 30%, on a plus ou moins de poids. Ensuite, il y a la question des financements des syndicats aussi, qui sont liés à ces élections. Et donc, effectivement, l'outil chambre est intéressant. Et d'ailleurs, à la Confédération paysanne, on a gagné 3 nouvelles chambres. Donc, on est à 4 chambres sur ces dernières élections. C'est un outil important, mais il faut quand même rappeler que c'est quand même, y a quand même des questions d'économie systémique qui sont plus de l'ordre d'une orientation gouvernementale qui régissent vraiment la politique agricole.
Oui, de manière plus globale, plus nationale aussi.
Oui, oui.
Je dis juste bonjour, il y a plein de gens qui viennent d'arriver. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Ah oui, alors tout à l'heure quelqu'un disait, oui, l'État a fait appel pour la 69. Oui, évidemment, et évidemment, la ministre de l'Environnement est complètement pour cet appel et pour cette autoroute, parce que c'est vraiment super, et l'environnement, pourquoi en parler ? Olavan ou Olaven dit « Les chambres sont orientées aussi par les monocultures de nos zones géographiques. » Que pensez-vous de cette réflexion ?
Disons que les chambres sont au service du modèle dominant de leur département, donc forcément elles sont... En fait, alors je ne sais pas, ça a pu évoluer depuis mon époque, mais à mon époque, les chambres avaient en général 50 salariés. Parfois un peu plus avec des systèmes de contrats qui contournaient les limitations. Ça veut dire quand même ça, une masse de personnes qui peuvent travailler sur, donc pour chaque département, hein, décider de mettre des... Évidemment, dans une région de grande culture, ils vont avoir plusieurs salariés chargés des grandes cultures. Dans une région d'élevage, ils auront plusieurs salariés chargés du porc, de la volaille, etc. Enfin, voilà, ils s'adaptent effectivement au terrain.
Oui, clair. J'imagine que dans les régions avec beaucoup de viticulture, c'est pas la même chose qu'en Bretagne, quoi.
Après, le gros problème, c'est le souci de gouvernance, quoi. On sait que, enfin, voilà, il y a des... Ça dépend de la volonté aussi du syndicat de vouloir faire... Enfin, écouter la parole de telle ou telle production. Je sais qu'il y a beaucoup de départements qui ont du mal à faire entendre aussi les problématiques de certaines productions parce que elles sont tout simplement pas écoutées et pas représentées au sein des chambres. Et ça, c'est vraiment la question de la gouvernance et de ce mode de scrutin avec la prime majoritaire qui est extrêmement
oui, c'est justement, pas du tout démocratique. On va en parler juste après, comme ça au moins vous pourrez continuer là-dessus. Uriel qui nous demande, Eli Elio qui demande pourquoi les paysans paysannes votent-ils et elles contre leurs intérêts. Et ben, on va parler justement maintenant parce que ces élections de janvier dernier, il y a eu un gros changement. Il y a eu l'arrivée d'un syndicat qui était jusqu'à présent quand même assez minoritaire et qui a gagné justement pas mal de voix. Mais alors juste avant d'en parler très rapidement, donc il y a 3 syndicats principaux agricoles. Est-ce que vous pouvez me dire grosso modo, vraiment très rapidement, quelle est leur couleur politique et quelle agriculture défendent ces syndicats, grosso modo, leur point de vue sur le Mercosur et compagnie. Alors déjà, la FNSEA, donc majoritaire. Comment est-ce qu'on peut les décrire en quelques mots? Quelqu'un veut se lancer?
Bon, je dirais que c'est le syndicat de l'agro-industrie. Okay. Ça a été longtemps le syndicat unique qui s'est basé sur l'idée qu'il y avait une classe paysanne unique, que tous les paysans étaient réunis par une communauté d'intérêts. Et en fait, depuis les années 60, avec Michel de Baptiste, il y a eu un compromis entre de Baptiste et son groupe, qui était plutôt des éleveurs, et les deux gros syndicats internes, parce qu'il y a plein de syndicats internes à la FNSEA, qui sont la GPB et la GPM, donc les producteurs de blé et les producteurs de maïs. En gros, c'est les producteurs de grandes cultures, donc céréales, protéagineux, ont le pouvoir, et on donne la présidence à un éleveur pour faire illusion. Et voilà, la FNSEA, c'est un affichage d'un syndicat qui représente tous les paysans, avec en arrière-plan, mais tout le monde le sait, un projet qui est un projet industriel. Il faut savoir que dans les années 70, la FNSEA avait déjà prévu dans ses discussions internes qu'il fallait, selon eux, que le nombre de paysans en France descende à 300 000.
Ah bon ?
Je me souviens quand j'étais gamin, dans les années 80, quand mon père, qui était syndicaliste, qui a été un des fondateurs de la CONF, d'ailleurs qui a été rapporteur du congrès fondateur de la CONF, donc je fais partie aussi un peu de cette histoire-là.
C'est beau.
Mon père me disait, mais on sait que la FNSEA vise 300 000 paysans, etc. Je me souviens très très bien. Et quand je parlais de ça avec mes copains, je me faisais insulter, disant, mais non, c'est pas vrai, parce qu'ils ne le reconnaissaient pas. Et mais c'est très récemment que des documents déclassifiés, enfin qu'ils ont rendu public des archives, dingue. Qui ont permis de démontrer que ce qu'on disait était vrai. Ça fait 50 ans qu'ils disent ça, mais alors qu'ils ont prétendu défendre les paysans.
Mais on remplace par quoi? Par la mécanisation, en fait, c'est ouais. ça C'est
on
grande
a
ferme, moins de gens, et on voilà.
Un
et,
modèle agro-industriel qui produit quoi. Prétendument plus d'aliments, plus de richesses, avec moins de travailleurs.
Donc, agriculture intensive, plutôt marquée à droite, du coup, hein, ouais. Libéral, allons-y gaiement. La Confédération paysanne, donc, à l'opposé.
Oui, nous, on est un syndicat qui porte un projet politique qui est l'agriculture paysanne et la défense de ses travailleurs et travailleuses. L'agriculture paysanne, c'est un projet politique transversal qui a pour but, de produire une alimentation de qualité, accessible pour tous et toutes, sur des fermes nombreuses, à taille humaine, en faisant attention à la ressource, et qui se calque sur le grand principe de la souveraineté alimentaire, mais le principe de la souveraineté alimentaire de la Via Campesina,
ouais,
qui est original. Qui est en fait le droit des peuples à décider de leur politique agricole sans dumping vis-à-vis des pays tiers. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'amuser à dire qu'on va aller nourrir le monde en exportant massivement des productions agricoles sur-subventionnées qui vont détruire les agricultures des pays du Sud. Et donc on a une vision assez internationaliste aussi de la politique agricole en solidarité avec les paysans et les paysannes du monde entier, et ce qui nous diffère quand même pas mal. Et donc on s'est opposé depuis extrêmement longtemps aux politiques libérales, notamment avec la bataille contre l'OMC, etc. Et donc aujourd'hui, clairement, on s'oppose à l'ensemble des traités de libre-échange et on est pour l'instauration d'outils de régulation du marché drastiques pour protéger nos agricultures, que ce soit des pays importateurs ou exportateurs. Quoi.
J'imagine que la FNSEA est aussi contre les accords de libre-échange ?
Eh bien non.
Non, pas vraiment.
Ils se poussent quand même en... D'accord.
Non, pour eux, l'agriculture est un outil économique puissant pour la France, et donc on a besoin des accords de libre-échange pour exporter notre vin, nos céréales,
etc. On a l'impression médiatiquement... Pour ne pas attiser la colère déjà paysanne, la FNSEA évite de dire trop fort « c'est super, les libre-échanges, hop là, allons-y, on tape dans la main ». Donc c'est quand même leur politique globale qui va dans ce sens-là, mais le dire, c'est quand même un peu trop dangereux.
Ils l'ont dit clairement à une époque, ils sont effectivement beaucoup plus sur le recul aujourd'hui, parce que parce qu'ils savent bien que ce n'est pas populaire et parce qu'ils ont été sous la pression de la coordination rurale. Et là, pour présenter peut-être rapidement, tu pourras compléter.
Alors justement, voilà.
Ce qui est la coordination rurale.
J'ai juste Olavin qui dit Marcel Delplace entrant à la radio après-guerre, en gros, vous verrez tous les paysans à l'ancienne, c'est fait. Eh bien oui, on est en train de faire ça, le projet est là. Donc le troisième syndicat.
Et donc la coordination
syndicat,
rurale, c'est issu plus ou moins d'une scission de la FNSEA. Enfin, après tous les syndicats sont issus. Même il y a une partie de la CONF qui était issue d'une scission de la FNSEA dans les années 70. Mais la coordination rurale, c'est un peu la dérive encore plus extrême droitière de la FNSEA. Avec un côté très poujadiste, ce qui implique derrière beaucoup de flou. Ça existe depuis quoi, 15 ans maintenant à peu près. Et au départ, il y avait des gens, il y avait vraiment... non, je ne raconte pas, 15
c'était,
ans.
C'était 92...
Oui, 30... Je me perds dans les calculs de date. 35 ans, pardon. Au départ, puisque je dis, il y a 25 ans, j'ai connu des gens de la grande rurale qui étaient plutôt bio, qui n'étaient pas forcément dans la ligne qui domine actuellement. Bon, ils ne sont pas restés non plus, hein. Donc il y a toujours eu ce petit flou au sein de la coordination rurale, mais globalement ils sont encore, enfin, autant que la FNSEA pour un ultralibéralisme, pour une vision complètement ultralibérale de l'agriculture, c'est-à-dire on doit s'aligner sur les conditions que le marché mondial nous impose, et donc pour s'aligner sur ces conditions, la seule façon pour être rentable, et encore pire dans le contexte de dérèglement climatique et donc d'insécurité de production, ben, il faut abattre les normes. Et derrière, il y a toute une vision aussi quand même très, qui plaît, je pense, qui a beaucoup plu, très repli sur soi, très identitaire. C'est pas pour rien si dans certains départements, les leaders de la coordination rurale sont chez les identitaires, donc encore plus à droite,
oui,
encore plus à l'extrême droite que
le RN.
Oui,
c'est quand même un syndicat qui est proche de l'extrême droite.
Et donc, il joue sur ce côté traditionnaliste, identitaire.
Terroiriste, voilà, régionaliste.
Et avec cette, tout en s'adaptant parfaitement, enfin, en gros... Ils râlent contre le système industriel qui s'impose à eux, mais ils font tout pour s'y adapter. Ils font rien pour le changer.
En fait, c'est l'extrême droite globale, c'est-à-dire qu'ils se disent anti-système, mais ils sont parfaitement intégrés et imbriqués dans un système productiviste. Et ils ont un discours quand même anti-écolo qui est aussi violent que celui de l'extrême droite et de la droite maintenant française.
Il y a une vraie continuité, mais ce qui est... pour autant, ça ne va pas de soi forcément qu'il y ait tant de paysans qui s'y retrouvent. Je pense que le score de la coordination rurale, moi, je ne pensais pas qu'il ferait quand même autant.
Et ce score, il donne ma définition de la CR.
Il a des motivations complexes et c'est très, il y a beaucoup d'irrationnel là-dedans et c'est assez attristant de voir ce qu'ont donné les élections chambres, parce que je ne pense pas que 30% des paysans en France se reconnaissent réellement dans la coordination rurale.
Bah, on va en parler juste après. Thomas, avant, tu voulais donner ta vision de la CR.
Oui, parce qu'en réalité, c'est assez complexe. Déjà, ils se sont fondés au moment de la réforme de la PAC de 1992, où on a arrêté de subventionner par les prix et on s'est mis à faire des subventions découplées. Et c'est un moment où il y a eu une révolte un peu large, où d'ailleurs la Confédération paysanne a participé à ce mouvement un peu large de paysans. Et pour moi, la coordination rurale, elle dit un peu tout et son contraire. Et c'est ça qui est extrêmement compliqué. C'est qu'il peut très bien y avoir des positions qui sont tenues par le national et qu'un représentant départemental va dire clairement son opposé, que ce soit sur les questions de régulation de marché, de libre-échange, mais même sur les questions environnementales, etc. Et du coup, c'est extrêmement confus. Et en fait, on peut entendre à peu près ce qu'on a envie d'entendre dans ce syndicat. Et pour nous, c'est un syndicat qui défend surtout, qui est en fait la résultante d'une crispation identitaire aussi, liée à des positionnements qui sont compliqués par rapport à la ruralité des gouvernements successifs et aussi du fait que, voilà, on n'arrête pas de critiquer la manière de produire, et en plus de ça, ils galèrent à fond, ils sont dans une précarité extrême. Et donc, c'est une réaction identitaire en fait à ces attaques-là, et qu'il faut aussi comprendre et comprendre pourquoi nous, je dis un espèce de grand nous, toutes les forces progressistes, nous n'arrivons pas à répondre et à être audibles.
Alors justement, ça on va en parler, on va rentrer dans le cœur du sujet. Quelqu'un dit, le vote, Totor des Bois, dit le vote pour la coordination rurale, c'est pour beaucoup un exutoire électoral. D'ailleurs, on parle de la dynamique de la CR depuis moins de 2 ans, c'est ce que vous disiez tous les deux, hein, une forme aussi de ras-le-bol, anti-système, etc., et de crispation identitaire. Je vois qu'il y a des questions. D'abord, je vais prendre la question de la Chambre d'agriculture, comme ça on pourra revenir tout de suite aux élections. Ant Arche qui dit « Merci au poste de mettre en lumière les idées que défend la conf et son travail, cœur, bah, cœur sur toi, Ant Arche. Question, quand un nouveau syndicat arrive à la tête d'une chambre d'agriculture, qu'advient-il de l'équipe salariée en place qui travaillait pour un syndicat dont les objectifs étaient très différents ? Quel est le poids de cette équipe salariée ? Est-elle un brame politisé ? Alors, brame politisé, oui, hein, on l'a bien vu, mais du coup, qu'est-ce qui arrive à l'équipe ? Tout le monde dégage ?
Non, pas forcément. Alors ça, tu pourrais peut-être mieux voir comment ça s'est passé quand la conf a récupéré les chambres, mais non, c'est pas forcément un bras armé politisé, faut pas exagérer, c'est-à-dire que Moi, quand je travaillais
en chambre d'agriculture. Moi, j'étais à fond. Je me suis dit, allez, c'est ça.
Quand je travaillais en chambre d'agriculture, je n'étais pas forcément d'accord avec la politique de la FNSEA. Et pourtant, j'y étais. Et je pouvais faire ce que je voulais faire. C'est-à-dire qu'il y a quand même une marge de manœuvre. Il y a quand même au sein des équipes des chambres d'agriculture des gens qui font un super boulot. Et donc, c'est du coup par coup. Je pense qu'il y a forcément quelques cadres dirigeants de la chambre d'agriculture qui vont changer quand le syndicat change parce qu'ils sont là pour donner l'orientation politique. Mais l'essentiel de l'équipe ne va pas changer du jour au lendemain. Et l'essentiel de l'équipe va se plier à ce qui est demandé. Hein. C'est bien et pas bien. C'est-à-dire qu'une bonne partie des salariés de chambre d'agriculture ne sont en fait pas vraiment politisés. Donc c'est un peu décevant sur le fond, mais l'avantage, c'est qu'ils peuvent aussi s'adapter à ce qu'on leur demande.
Qu'est-ce qui arrive du coup? Pardon, j'ai une question, parce qu'il y a Somaya Wassa qui pose une question, mais on y répond tout à l'heure, donc je la note. Thomas, qu'est-ce qui arrive quand la conf paysanne décroche des sièges, décroche une chambre en fait? Qu'est-ce qui arrive à l'équipe partante, sortante?
De l'équipe salariée, déjà, on ne vire personne. l'idée, c'est de changer les orientations politiques de cet outil chambre pour qu'il permette en fait de répondre aux enjeux du plus grand nombre de paysans et de paysannes et de tout faire aussi pour que tout le monde se sente représenté. Que les formations collent aussi aux besoins de l'ensemble des productions et qu'il n'y ait pas de problématique de préférence par rapport à telle ou telle production. Et il y a une possibilité vraiment de pouvoir aussi développer des projets importants, que ce soit par exemple sur l'aide, l'appui de filières qui pourraient être beaucoup plus cohérentes sur le territoire et mettre un peu en lien les différents acteurs pour pouvoir y arriver, quoi.
Alors,
donc c'est pas comme quand Trump et Musk arrivent au pouvoir.
Oui, c'est ça,
quand il y a un changement de couleur politique dans un pays ou dans une chambre d'agriculture, les fonctionnaires qui sont en place restent en place, normalement, dans une démocratie qui fonctionne.
Vous avez parlé tout à l'heure du mode de scrutin, et c'est vrai qu'on n'a pas parlé du mode de scrutin avant de parler du tremblement de terre coordination rurale qui vient d'avoir lieu. Le mode de scrutin, il est très discuté. Alors, les détails, sinon on va passer une émission entière à en parler. Mais je vous conseille, il y a Basta qui a fait une super FAQ. Il y a le lien qui va être dans le chat. Il y a Nian qui va nous mettre le lien dedans. Un des problèmes, c'est que ça limite le pluralisme parce que le syndicat qui arrivait en tête se voit attribuer d'office la moitié des sièges. Et l'autre moitié, c'est en fonction du nombre de voix. Donc déjà, on peut remettre en question ce mode de scrutin. Donc jusqu'à présent, c'était l'Alliance FNSEA et Jeunes Agriculteurs, parce qu'en fait, c'est les deux main dans la main, qui contrôlaient plus de 95% des chambres. Donc pour les deux autres syndicats, ça veut dire qu'il y avait beaucoup moins de représentation. Et donc on le sait aussi, dans certaines régions, il y avait vraiment une mainmise de la FNSEA. Et alors, tremblement de terre, qu'est-ce qui s'est passé lors des dernières élections, Thomas? La CR est arrivée en force, c'est ça?
Oui, toute proportion gardée, hein, quand même. La FNSEA reste extrêmement majoritaire. Et donc, la coordination rurale a quand même augmenté de 8 ou 9 points, il me semble. Et a été premier sur le collège 1 dans 14 départements, contre 3 lors des précédentes élections. Cependant, le fait qu'il y ait un jeu de différents sièges dans la Chambre d'agriculture, il se trouve que le jeu n'est pas gagné pour qu'il gagne la direction des chambres. Dans quelques départements, notamment dans la Gironde et dans, je ne sais plus dans quel autre département des Cévennes, là, il y a la FNSEA qui n'avait pourtant que trois sièges en tant que représentant paysan. On réussit à collaborer avec les banques, les assurances, les coopératives et sont arrivés en tête lors de la session d'installation de la Chambre d'agriculture et ont réussi à choper quand même la présidence de la Chambre et un bureau complètement FNSEA. Donc, alors même que passe au-dessus du résultat des élections professionnelles.
Ah oui, mais ça ne veut pas dire que...
Dans le problème de gouvernance, c'est vrai que j'ai souvent entendu ces derniers temps cette histoire de moitié d'entrée. Et putain. Ouais. Mais pour moi, ça c'est presque secondaire. Le plus grave, c'est ce que vient d'expliquer Thomas, c'est le fait qu'il n'y a que 18 sièges sur 32, je crois, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Sur 32, qui viennent du collège 1 agriculteur. Les autres collèges, on a un phénomène en fait d'amplification majoritaire. et de représentation. C'est un système de grands électeurs, en quelque sorte. C'est un système indirect. On a des collèges, des coopératives, un collège des organisations de finances, des organisations mutualité sociale agricole, un collège des salariés. Alors celui-là, il pourrait éventuellement basculer autrement, mais on a un collège des anciens agriculteurs à la retraite, etc. Et tous ces collèges-là sont tous quasiment gagnés d'avance par la FNSEA, même quand elle ne fait plus que 50% au niveau national, parce que l'inertie du système fait que le représentant de la mutualité sociale agricole, c'est toujours quelqu'un de la FNSEA. Le représentant du crédit agricole, c'est toujours un agriculteur
de
la FNSEA.
Ils n'ont pas besoin d'être uniquement dans une instance, on va dire, qui sont un peu partout. Voilà.
Comme ils noyautent depuis très longtemps toutes les instances indirectes de représentation, et qu'elles ont, elles, ensuite, leur propre collège d'élection aux chambres, en fait, ils gagnent.
Oui, c'est une stratégie gagnante de toute manière. Voilà. Ils ne vont jamais vraiment disparaître.
Il y a une inertie très, très lourde.
Parce que ce qu'on disait, donc, c'est au niveau national, l'Alliance est passée sous la barre symbolique des 50% pour la première fois. Ouais. La coordination rurale obtient 29%, la conf paysanne 19%.
Alors non.
Ah, ce n'est pas les chiffres officiels, là, je n'ai pas les nouveaux chiffres.
Non, en fait, on se bat beaucoup par rapport à ces chiffres parce que justement, ils oublient les Outre-mer, ils oublient la Corse, ils oublient.
D'accord, sympa.
Donc, on est plutôt à 20,9% et c'est extrêmement important pour des questions de financement, etc. Et aussi que, notamment, souvent, le premier chiffre annoncé, il reste dans la tête des gens et du coup, on se retrouve avec. Bon, ça paraît peu comme différence, mais c'est important. On est plutôt autour de 20,9%. Okay. Et du coup, ça réduit aussi l'écart.
Oui. Quand on a
une petite progression et non pas une petite régression. En fait.
Voilà, c'est ça, ouais.
Oui, on peut quand même se féliciter pour la conf paysanne d'avoir gagné des nouvelles chambres à ce point-là et de pouvoir quand même rivaliser un peu plus maintenant en termes de poids. Quelqu'un demandait. Où est-ce qu'elle est ? Ah, je ne sais plus. C'était quoi ? Je ne sais plus. Bon, on va prendre la question de Olavan. Est-ce que... Alors, merci, Niane, de faire remonter un peu, parce qu'il y avait une question qui m'intéressait. En tout cas, c'était quelqu'un qui... Ah oui, c'était ça, juste au-dessus, encore un petit peu. Ah, voilà. Pourquoi les paysans, paysannes... Je voudrais qu'on réponde à cette question maintenant. Pourquoi les paysans, paysannes votent-ils contre leurs intérêts ? Puis qu'on parlait de la coordination rurale et de la FNSEA, que le modèle productiviste intensif, etc., et libéral, visiblement, dysfonctionne et fait que les paysans et paysannes ne gagnent pas suffisamment et correctement leur vie, on se dit que c'est un peu comme l'extrême droite aujourd'hui en France, qui refuse les augmentations de salaire, et pourtant les gens votent massivement contre un niveau de vie qui pourrait être meilleur. C'est la même chose. Pourquoi est-ce que dans la pédagogie, c'est pareil ?
Si on avait la réponse, on pourrait éviter que ça se produise. et donc, pour moi, il y a une part de mystère là-dedans. Même si je suis aussi anthropologue, donc j'ai aussi des outils pour analyser les dynamiques sociales, mais aussi bien au niveau politique français qu'au niveau élection-chambre, il y a une partie qui m'échappe. Après, je pense quand même, j'ai quand même un élément de réponse, c'est le poids culturel de ce modèle industriel. C'est-à-dire que, globalement, pour résumer la situation actuelle de l'agriculture française, selon moi, l'élément crucial, c'est d'être conscient qu'il y a effectivement une vraie crise agricole, mais qui est liée essentiellement au dérèglement climatique, en fait. Enfin, qui est liée. Non, le déclencheur, c'est le dérèglement climatique. C'est-à-dire que le mode de production qui a été mis en place depuis le 19e siècle et surtout depuis la Seconde Guerre mondiale, il est basé sur le fait d'artificialiser le vivant. Pour avoir des variétés qu'on présente comme étant à très haut rendement, non de très haut rendement, qu'à la condition qu'on reproduise dans les champs les conditions de théoriques de sélection.
Elles sont adaptées pour des conditions X, idéales. Et il faudrait que partout il y ait des conditions
X. C'est une condition idéale, en plus une construction d'agronome. Et donc, on va mettre des pesticides pour qu'il n'y ait pas de maladies, parce que sinon, elles ne feraient pas leur super rendement. Pas d'insectes, pas rien. On va mettre des engrais pour qu'elles aient tout le temps les éléments minéraux qu'on veut. On va irriguer, etc. Et donc, ce modèle-là, qui ne fonctionne qu'à la condition d'artificialiser le monde, donc de lutter contre le vivant, finalement, il ne peut plus fonctionner quand le climat s'effondre. Et donc, on n'arrive plus à reproduire les conditions théoriques de la sélection des plantes. Et donc, ce modèle, il est en train de s'effondrer, en fait. Et les paysans, alors, ils n'ont pas forcément analysé ça, mais ils sentent bien au quotidien qu'ils sont tous à se demander, mais dans 3 ans, dans 5 ans, comment je vais produire avec les conditions qui changent totalement. Et en fait, leur repli, c'est de se dire... Toutes choses étant égales par ailleurs, c'est-à-dire le modèle industriel qui nous impose que pour être rentable, il faut produire des très grands volumes au prix le plus bas possible, eh bien pour continuer à produire de très grands volumes au prix le plus bas possible dans des conditions dégradées, il faut qu'on élimine tout ce qui nous empêche de produire plus, moins cher.
C'est-à-dire ?
Donc l'environnement. Voilà. Enfin, je n'aime pas dire normes, disons
Règles. Il faut dire les règles, c'est quand même le mot.
Pour moi, ce n'est pas, pas des normes, c'est des règles élémentaires de bien commun pour que la planète soit encore vivable demain.
Mais c'est vrai que justement, ce discours anti-normes et qui est un discours anti-écolo, il est quand même très virulent dans la bouche de la coordination URA. Il y a eu des actions quand même très violentes et il y a vraiment des phrases très violentes, notamment sur les pesticides, notamment sur les méga-bassines, sur les ressources en eau. D'abord, ma question précédente, parce que je voulais quand même garder le fil sur ça. On a répondu plus ou moins pourquoi donc la coordination a progressé de cette manière. Pourquoi, en fait, la fronde anti-FNSEA, elle n'a pas favorisé la conf paysanne? Justement, à cause de ce que Jacques vient d'expliquer?
Moi, je pense qu'il faut se poser la question de, effectivement, pourquoi c'est le discours anti-écolo qui résonne le plus dans le monde paysan. Et je pense que il faut qu'on se pose la question de comment faire pour être audible auprès du maximum du monde paysan. Et je pense qu'il faut partir de quelque chose de très simple. En gros, nous ne changerons pas de modèle sans celles et ceux qui travaillent la terre aujourd'hui. Nous devons éviter d'avoir aussi des discours qui sont beaucoup trop frontales. Enfin, pas frontal, mais en tout cas qui vise la responsabilité individuelle des paysans et des paysannes sur leur mode de production, alors même qu'ils sont victimes de ce système-là. Et ça, c'est extrêmement important de le mettre en avant, parce que je pense qu'il faut qu'on réfléchisse au discours de manière générale, mais aussi aux cibles de qui est responsable de ce mode d'agriculture. Pour nous, par exemple, on a toujours un discours qu'on appelle le discours systémique sur la question des pesticides. Jamais on va dire c'est la faute des paysans qui veulent juste polluer. Le pesticide, pour nous, c'est une arme de concurrence sur le marché international, parce que si les paysans décident d'arrêter ce pesticide dangereux, ils vont augmenter leur coût de production et ils vont se retrouver en concurrence sur le marché international, et donc ils vont baisser en fait leur marge et ils vont se retrouver dans une précarité encore pire que celle dans laquelle ils sont.
Justement, il y avait Maître Bell Zéro qui demandait, avec le Mercosur, pas peur de la concurrence, surtout avec les pesticides interdits?
Par exemple, pour nous, la question, elle n'est pas uniquement sur les pesticides, parce que justement, la position de la FNSEA, après c'est un peu compliqué, mais elle était non au Mercosur, sauf si on arrive à avoir des clauses miroirs qui permettent d'avoir les mêmes normes de part et d'autre des pays. Mais ce qui compte pas là-dedans, c'est qu'il y a une immense partie de la compétitivité qui se fait aussi sur le coût du travail, sur la rémunération des paysans.
Et le dumping social.
Dumping social, etc.
Donc, puis que c'est des fermes gigantesques en Amérique du Sud, on a des CD ranch, c'est pas des petites fermes, quoi.
Et des avantages comparatifs.
On peut baisser le coût du travail, le coût de production très facilement. Mais en fait, ça rejoint complètement ce que je disais. Hein, c'est une autre façon de dire ce que je disais, c'est-à-dire la cause, elle est le modèle agro-industriel dans lequel les agriculteurs croient être piégés. Enfin, ils ne le remettent pas en cause parce que pour eux, c'est comme ça qu'il faut produire. Et s'il faut produire dans ce modèle-là, leur obsession, c'est logique, c'est de baisser les prix, de baisser les charges, le coût de production, de baisser le coût de production. Et donc, c'est le système qu'il faut changer. C'est clairement le système qu'il faut abattre.
Et je finis parce que c'est important pour moi. Par exemple, je prends l'exemple d'un projet de porcherie qui s'est monté à côté de chez moi. Qui était une porcherie de 1000 porcs et qui, du coup, il y a des assos environnementalistes qui se sont montés contre ce projet, alors même que la moyenne des porcheries nationales, c'est 2000 porcs. Et il y a eu une pétition qui a été mise en ligne, 15 000 signatures, les associations antispécistes vont debout, etc. Et en réalité, il n'y a pas eu plus contre-productif que cette action-là. Il y a juste eu une crispation identitaire absolue autour de cette question. Et nous, à la Confédération Paysanne localement, on a soutenu ce projet d'installation Parce qu'en réalité, il faut se rendre compte de la situation actuelle de l'agriculture, quoi. Parce que en fait, il y a des réactions du mouvement écolo, etc., qui est complètement déconnectée des réalités du terrain. Et aujourd'hui, si on commence à s'opposer à ce type de ferme, etc., bah, en fait, on s'oppose à toutes les installations possibles en port. Parce que en réalité, c'est la seule manière de se rémunérer en production porcine aujourd'hui. La filière porc bio, elle est en train de s'effondrer, etc. Donc aujourd'hui, il faut aussi avoir en tête la réalité du terrain. Et donc, quand on s'oppose à un projet, il faut vraiment que ce soit un projet emblématique ou en termes d'accélération de l'industrialisation ou alors un projet qui va plus dans la financiarisation de l'agriculture. Et donc, il y a un autre projet aussi en Haute-Vienne qui est en train de se monter, qui est un centre d'engraissement à Périllac, qui lui est qui est une immense ferme de 600 hectares qui va être rachetée par un agro-industriel. L'important, c'est que dans cette ferme-là, il n'y aura pas de paysans. Et que c'est en fait un agro-industriel qui gère de la boucherie, qui a plusieurs abattoirs, qui est français et qui du coup va racheter cette ferme-là pour maîtriser en fait l'ensemble de la chaîne.
Bien sûr.
Et pour nous, ça, c'est quelque chose d'intéressant, de montrer du doigt, parce que là, il y a vraiment quelque chose de remplacer les paysans par de la financiarisation et des salariés surprécarisés, quoi. Et ça, pour nous, c'est beaucoup plus logique et de montrer du doigt et toujours avoir en tête quand on porte une revendication environnementale, il faut toujours l'avoir sous un axe social, quoi. Faut toujours l'avoir, parce que si on arrive, militant, citadin, etc., avec des bonnes volontés de dire, en réalité, il faudrait arrêter l'élevage parce que moi, je trouve ça franchement dégueulasse, etc. Il faut s'imaginer la violence que c'est.
Oui, il n'y a aucune chance que ça prenne, de toute façon, que ça ouvre une brèche, une réflexion, une discussion.
Non, et la violence que c'est, oui, un discours antispéciste pour des éleveurs et des éleveuses, mais même pour l'ensemble de la ruralité, en fait. C'est pour l'ensemble de la ruralité. Et donc, il y a une responsabilité des politiques aussi à mettre en avant des politiques qui prônent l'antispécisme et qui, parce que ça va clairement cliver et crisper une large part de la ruralité, quoi.
En fait, c'est la même manière que... Tu voulais dire ajouter un truc, Thomas ?
Parce que je parle de l'antispécisme. Enfin, après, parce que c'est quelque chose... En plus, tu as invité des associations animalistes, ouais, etc. Et que je pense que c'est important d'avoir un mot là-dessus, parce que malheureusement, dans nos rangs, souvent, les associations antispécistes, elles sont mises en avant et sans jamais avoir de discours contradictoires en face.
C'est souvent justement comme ça qu'on les invite à la télé, c'est qu'on met deux personnes en face pour qu'il y ait un gros clash.
Mais sans avoir notamment des éleveurs qui ont réfléchi à la question. Nous, à la Confédération Paysanne, ça fait longtemps qu'on travaille sur le rapport humain-animal, sur notre rapport au vivant, sur notre rapport à la mort. Et je pense qu'on a beaucoup de choses à dire sur la question et que je pense que les forces progressistes ont intérêt à nous écouter sur ces questions-là.
Il y a beaucoup de questions qu'on a dans le chat après.
Mais à la fois, je suis d'accord et j'ai des points de désaccord. C'est-à-dire que forcément, je suis d'accord parce que c'est ce que je défends globalement, de le fait qu'on doit regarder la question de l'élevage sous l'angle de ce qui est écologiquement et agronomiquement cohérent. Donc d'un point de vue paysan, effectivement, et qu'il y a le sujet est parfois traité de façon un peu, enfin comment dire, beaucoup aiment bien mettre en scène une opposition finalement.
Bien sûr.
Mais pour autant, et puis je suis forcément d'accord aussi sur la lutte contre la ferme des 3000 bovins en Limousin, puisque je fais partie de ceux qui sont très impliqués dans ce combat, et avec Agir pour l'environnement, on a mobilisé très largement pour dans les deux enquêtes publiques de l'an dernier puis celle qui vient de se terminer. Et donc je connais bien ce dossier-là, donc là-dessus on est d'accord, il n'y a pas de problème. En revanche, sur les fermes hors sol, là moi j'ai un désaccord. Je pense que j'entends bien qu'aller s'opposer à un projet est maladroit, donc il vaut mieux éviter, mais je n'abdiquerai pas mon propos, qui est que l'élevage hors sol n'est pas tolérable. Et donc, ça n'est pas une solution, ça n'est pas normal. Si le système aujourd'hui fait que pour être rémunéré, il faut avoir 1000 porcs, eh bien, je ne suis pas d'accord pour dire j'entre dans le système. Et de toute façon, c'est ce que fait aussi, ce que font la plupart des paysans de la conf, etc., d'essayer de casser ça. Après, il y a une inertie. C'est-à-dire que les paysans, ils sont pris dans cette inertie et il faut voir comment on peut les accompagner pour en sortir. Oui, mais moi, j'ai envie d'accompagner pour qu'il y ait des petits ateliers de porcs plein air, sur paille, qui vont valoriser des déchets alimentaires que ne peuvent pas consommer les humains. Ça, je veux bien accompagner. Par contre, accompagner un élevage hors sol qui détourne des ressources qui pourraient aller aux humains et qui élève les porcs dans des conditions qui ne sont pas acceptables, parce que 1000 porcs, ça reste quand même beaucoup, je ne suis pas favorable. Après, ce n'est pas ces projets-là, effectivement, contre lesquels j'irai prioritairement me battre, je suis bien d'accord.
Mais nous, tout ce qu'on veut, c'est que ce soit possible de faire de l'élevage avec moins de porcs et d'être justement
rémunéré. Oui, vous dites la
même chose,
hein, c'est ce système qu'il faut changer.
C'est bien sûr, sauf qu'en fait, il y a la réalité du terrain, c'est toujours ça la problématique, et que du coup... en fait, il faut juste se dire aujourd'hui, la moyenne nationale, c'est 2000 porcs par porcherie. Qu'est-ce que énorme. Tu fais stratégiquement face à ça ?
C'est pas tolérable comme.
Ben oui,
moyenne.
Mais en fait, il faut aussi se dire qu'on va pas transformer le système agricole sans les paysans et les paysannes qui travaillent aujourd'hui, puisqu'on est déjà très peu nombreux. Et que c'est eux qui ont le savoir aussi de comment produire, etc. Et que ce serait clairement pas enviable de grand remplacer l'ensemble des paysans et des paysannes par des néo-ruraux qui, eux, auraient la juste manière de produire, etc. Donc, il faut aussi réfléchir à quelle stratégie on adopte pour que nos propositions politiques puissent être audibles auprès du maximum de paysans et de paysannes.
En fait, ce qui est intéressant aussi, au-delà de ce système que vous dénoncez tous les deux, évidemment, et qu'il faut pouvoir changer à un moment, mais pas ça va se faire en deux coups de cuillère à peau, c'est ce mépris de classe, hein, au fond, qu'on sent, et qui est justement aussi la raison, une des raisons, avec la xénophobie par rapport à l'extrême droite, qui fait qu'il y a le vote RN qui est monté, et le vote Reconquête et compagnie, qui est justement cette idée que il y a ceux d'en haut, pour reprendre les mots de l'ancien premier ministre, et ceux d'en bas, et qu'en fait, c'est ceux d'en haut qui dictent un peu le mode de vie de ceux d'en bas, leur disant, mais arrêtez de prendre votre bagnole, mais on l'a vu avec les gilets jaunes. Arrêtez de prendre votre bagnole, faites du vélo. Et là, c'est la même chose. On a l'impression, justement, de gens déconnectés de la réalité rurale et du monde paysan qui disent à d'autres, bah, on pourrait faire autrement. Faire de la bio, c'est pas si compliqué. Puis faire ça, c'est pas si compliqué. Puis changer de culture, c'est pas si compliqué. Donc, effectivement, on va un peu avancer parce que sinon, on va rester longtemps là-dessus, même si c'est vraiment passionnant. Y a eu pas mal de commentaires. Est-ce que, Niane, tu peux remonter un petit peu les commentaires, s'il te plaît? Merci beaucoup. Donc, il y avait... Alors, à Karakir qui dit « Pour être du Lot-et-Garonne, le rapport culturel à l'exploitation raciste des travailleurs travailleuses n'expliquerait-il pas les raisons du vote massif pour les syndicats comme la CER et la FDSEA, une culture très ancienne de l'exploitation et des êtres humains hiérarchisés donc fascistes, deux affaires du trait détruit dans le 47 en moins de 6 mois par exemple, etc. Les problèmes écolo viennent en second plan clairement. » Est-ce que vous pensez que justement ce rapport à l'exploitation de personnes avec ou sans papier, de personnes migrantes, souvent mal rémunérées, dans des conditions de travail abominables et sordides et illégales, est-ce que ça peut être un ressort du vote CER ?
Moi, je ne sais pas si c'est un fonds culturel paysan dans ce sens-là. Je pense que là, pour le coup, effectivement, ça serait quand même très désobligeant vis-à-vis des paysans de dire
bien
ça.
Sûr.
Après, il y a des régions où il y a quand même des habitudes de travail, et que ce soit dans le monde paysan ou pas paysan. Et il y a effectivement en France un certain nombre de patrons qui ont une habitude d'exploitation des salariés. C'est pas nouveau, hélas.
En viticulture, beaucoup,
ouais, notamment. Mais il y a quand même un vrai problème, je pense, dans le monde paysan en général. Et c'est pas, encore une fois, hein, c'est pas du tout pour critiquer les paysans eux-mêmes. À la limite, d'ailleurs, c'est plus ceux qui réfléchissent sur le monde paysan que je mettrai en cause à ce sujet-là. C'est qu'il y a des sujets que très bizarrement, on laisse toujours de côté. Par exemple, avec la meilleure volonté du monde, vous avez cité tout à l'heure le fait qu'il y a presque un suicide par jour d'agriculteurs en France. Quand ce chiffre sort, pratiquement personne ne le rajoute, et un suicide de salariés agricoles par jour également. Les salariés agricoles disparaissent quasiment totalement des débats. Quand il y a eu les manifs l'an dernier, une des raisons aussi peut-être pour lesquelles on voyait moins les gens de la conf sur les ronds-points que les gens de la CR ou de la FNSEA, c'est que pour que les fermes continuent à tourner pendant que les mecs étaient sur les ronds-points, bah c'était les salariés agricoles qui faisaient le taf. Et les confédérations paysannes, ils ont quand même pas mal d'emplois salariés, mais beaucoup plus dans des formes associées, etc. Et donc, c'est moins dans une logique d'exploitation. Et un autre élément qui est aussi souvent oublié, c'est quand on va dire que, oui, mais le modèle du petit paysan qui possédait ses terres au 19e, parce que 75% des paysans français possédaient leurs terres au 19e, Il n'était pas vraiment dans un... Marx lui-même disait le paysan n'est pas dans un vrai système capitaliste parce qu'il est à la fois possesseur de son moyen de production, de ses moyens de production, ouais. et il apporte sa force de travail à ses propres moyens de production. Donc il n'est pas dans une logique capitaliste, c'est une classe en soi. Je m'excuse, mais même au XIXe siècle, ceux qui possédaient les moyens de production, c'était les maris. Et dans cette analyse, on oublie complètement les femmes. Ouais. Qui en fait,
oui, qui n'avait pas de statut de conjointe totalement exploitante dans les années 80,
qui était ouais. totalement exploitée dans un rapport totalement capitaliste, où elles enrichissaient le capital de leur mari au moyen de leur force de travail, sans aucune reconnaissance.
Oui, et puis à la fin, pas de retraite, etc., et fin, pas de droits.
Donc c'est aussi, je pense qu'effectivement, et c'est pas les paysans que je mettrais en cause là-dessus, c'est plutôt les sociologues, les économistes et les hommes politiques qui, quand ils parlent de l'agriculture, sont restés dans une vision du monde qui est quand même profondément réac et profondément problématique.
Enfin, et
les salariés agricoles
quoi, ouais.
et les femmes n'existent pas dans leur modèle.
Thomas ?
Pour moi, dans les idées d'extrême droite, elles font leur beurre sur la misère et sur un sentiment de déclassement. Et c'est avant tout ça qui a fait que la coordination rurale a pu s'implanter de manière extrêmement durable. Ils font 70% aux élections professionnelles cette année dans le Lot-et-Garonne. Et je pense qu'ils ont d'abord répondu aussi à ce sentiment de déclassement en permettant de retrouver une fierté à être paysan par l'identitarisme. Quoi. Ouais. Et du coup, c'est quelque chose qu'on n'a pas réussi à faire, nous. Et que, du coup, il faut qu'on se pose la question de pourquoi on n'a pas réussi à répondre à ce sentiment de déclassement, alors même qu'on a l'impression que nos propositions politiques sont bien plus cohérentes que celles qu'avance la coordination rurale.
Oui, ce qui est difficile, c'est peut-être les stratégies pour ne pas tomber dans une espèce de populisme, ce démagogisme et ce côté identitaire, mais plutôt dans le sens négatif du terme identitaire, c'est comment... mais c'est la même chose pour les élections présidentielles, régionales, etc. C'est aussi comment est-ce que... alors là, la fierté d'être français, bon, moi, j'y touche pas, hein, fierté d'être français de quoi, ben, je suis juste née là, je vais pas être fière. Mais effectivement, sur des métiers comme ceux-là, c'est la même chose. Et l'extrême droite joue évidemment sur le déclassement et sur les populations les plus précaires en disant qu'il y a toujours des gens qui vont prendre votre travail à côté. Là, le problème, c'est plutôt les plus riches qui vont prendre le travail des paysans, la technologie qui prend ça. Alors, c'est pour ça que la question était intéressante de est-ce qu'ils votent contre leurs intérêts. Il y a vraiment plein de gens qui disent des choses super intéressantes. Est-ce qu'on peut remonter, genre légèrement, parce qu'il y avait deux questions qui se ressemblaient pas mal. Donc les deux questions, donc un peu de sérieux qui dit « Au quotidien, y a-t-il un risque ou avantage d'adhérer à un syndicat de gauche ou de droite, référence aux pressions dans l'industrie quand on est adhérent CGT ?» Est-ce que c'est risqué d'être à la conf paysanne aujourd'hui ?
Par exemple, quand on va aller attaquer Lactalis, qui est le grand groupe...
qui est un des plus grands groupes mondiaux d'agroalimentaire.
Agroalimentaire, notamment sur le lait. Effectivement, on ne met pas en avant des producteurs laitiers qui donnent leur lait au groupe. Parce que, et c'est l'intérêt du syndicalisme aussi, c'est de pouvoir porter des revendications pour les collègues, quoi. Et le système de représentativité de syndicale, ça permet de se protéger aussi de ça. Alors du coup, oui, nous, on travaille en commission avec des paysans qui travaillent sur... on a une commission qui travaille sur le lait, sur les fruits et légumes, sur la viande bovine, etc. Et c'est vrai que quand on arrive à des moments un peu compliqués de rapport de force avec l'agro-industrie, on essaye plutôt de mettre les porte-paroles, etc. quoi.
Le collectif versus l'individuel. Faut qu'on avance parce que je me rends compte qu'il est 19h10, il nous reste une vingtaine, 25 minutes et j'ai encore plein de questions. Il y avait une question intéressante sur le prix, mais on pourra peut-être en parler après. Mais la question Ant-Arche qui demandait, sans l'aide de l'État, type sécurité sociale d'alimentation, et d'ailleurs ce sera le prochain épisode de Bouffe de là, je peux le dire, augmenter les revenus des... Alors il y a des astérisques, donc peut-être que c'est parce que le chat est censuré sur des mots un peu vulgaires, signifie-t-il nécessairement augmenter le prix de la nourriture? Comment convaincre la population de payer plus pour manger? Ah bah oui, mais alors là on est sur une... Comment convaincre les gens? Mais on ne peut pas convaincre quelqu'un de manger plus s'ils n'ont pas les moyens. C'est sûr que c'est augmentation des salaires. C'est peut-être une question qu'on abordera le mois prochain, justement, en tâche. Le mois prochain, on en parlera avec la Sécu de l'alimentation. Je ne vais pas prendre des questions tout de suite parce qu'en fait, j'ai plein de questions encore à vous poser. On parlait du discours anti-écolo très virulent de la coordination rurale. Véronique Le Floch, sur France Info, elle estimait, je cite, « C'est l'écologisation de notre politique agricole qui nous tue. » Donc on retrouve tout ce discours d'écologie punitive que les droites extrêmes et droites classiques, on va dire aujourd'hui, portent, évidemment. Même à gauche, on entend ces voix-là aussi. Et je voudrais donc qu'on vienne à ce mot, le mot « norme », puisque c'est ça le gros morceau aujourd'hui dont on parle pas mal depuis les dernières manifestations. La petite musique, en fait, de la part des syndicats, notamment CR et FNSEA, et des politiques de droite qui se joignent au cœur des critiques, qui dénoncent la complexité administrative, les normes environnementales, et qui d'ailleurs attaquent aussi l'Office français de la biodiversité, qui a quand même rappelé que moins de 1% des exploitations agricoles françaises sont contrôlées. Une fois tous les 120 ans, le risque, hein, donc bon, ça on va, voilà. Est-ce que c'est un vrai problème, ces normes? Parce qu'on entend, là vraiment, c'est le discours dominant de, justement, ces défenseurs d'un système agricole mortifère, quoi. Est-ce qu'il y a vraiment un problème administratif et de normes environnementales?
Alors, pour moi, il y a deux questions différentes. Ouais. Administratif...
Et après, Thomas, je vous laisserai la parole aussi.
Il y a une vraie dimension, il y a une vraie difficulté du monde paysan avec la lourdeur administrative. C'est un lieu commun, c'est en partie un truc qui est culturellement transmis de père en fils. Enfin, je veux dire, il y a une sorte de petit jeu culturel aussi dans le monde paysan, de dire les papiers, on n'en veut pas, quoi. Mais c'est vrai que c'est un problème et qu'il y a parfois, il y a eu en fait une addition de règles qui s'est faite souvent sans mettre en cohérence toutes les politiques agricoles, et notamment la politique agricole commune. C'est des millefeuilles où on a sans arrêt ajouté des couches sans enlever les autres. Enfin, donc, ça peut s'entendre. Après, le problème, c'est que ce discours est complètement hypocrite parce qu'il est mis au service d'une critique des régulations environnementales. Et en fait, ça revient à ce que je disais tout à l'heure et que je dirais toujours. C'est-à-dire, pour moi, c'est vraiment... On ne pourra jamais avancer sur le sujet agricole si on ne pose pas ça clairement à plat. C'est-à-dire que tant qu'on se laisse piéger, et c'est le problème, je pense, dans les débats qu'on a aujourd'hui, qu'il y a dans les médias, qu'il y a, y compris dans le monde syndical, on se laisse piéger par cette idée que il y a un système économique, toutes choses étant égales par ailleurs, et donc, est-ce qu'il faut quand même se débrouiller pour que les normes environnementales soient là ou pas? Mais on reste défensif si on dit ça. On reste dans l'idée que les régulations environnementales seraient une entrave aux revenus. Alors que ça n'est pas normal. Les régulations environnementales ne doivent pas être une entrave aux revenus. Si elles le sont, c'est uniquement parce qu'on a construit un modèle où le revenu n'est possible qu'à condition d'avoir des grandes masses de production à coût très bas. Et ça, c'est impossible de s'aligner dessus, sauf, enfin, c'est pas par hasard si ce modèle il a été mis en place d'abord en Amérique, enfin dans les colonies, de façon globale, parce que les colons ont mis en place des grandes fermes hyper extensives, des grands ranchs en Australie, en Afrique du Sud, en Amérique du Nord et du Sud, etc. Et puis ensuite, on a transposé ça, alors notamment avec les élevages hors sol qui sont l'opposé, mais qui sont une autre forme de la même chose. Et en fait, ce modèle-là, il ne peut pas fonctionner en France. Parce que la diversité des terroirs, le tissu rural paysan ne pourra jamais s'aligner sur ces conditions de production. Donc la logique totalement industrielle et la logique de vendre au cours mondial, qui est un cours à perte, puisque c'est un cours de surplus, c'est un cours de spéculation, c'est, de toute façon, ce modèle-là, c'est ça qui ne peut pas fonctionner.
Ça dysfonctionne structurellement.
L'environnement, là-dedans, c'est hors sujet, en fait, c'est totalement hors sujet. Et j'ajouterais que en termes de coûts de production à moyen et long terme, c'est même l'inverse. Aujourd'hui, si on intégrait aux coûts de production les coûts de dépollution de l'eau et les coûts de santé, et si on réinjectait ça en aide à l'hectare, les produits bio coûteraient beaucoup moins cher que les produits conventionnels.
On va en parler après de la bio aussi.
Le problème de l'environnement, la question de l'environnement, ça ne devrait pas être un problème. Si elle était intégrée par les politiques publiques, l'environnement devrait être un atout. Et respecter les règles environnementales devrait permettre aux agriculteurs d'avoir plus de revenus. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
Thomas.
Je souscris pas mal à ce qui vient d'être dit. Effectivement, il y a un souci de normes et de, oui, de normes qui s'empilent les unes aux autres et qui fait que on doit changer les chaussures à tel endroit, puis aller se changer, faire attention à nettoyer les mains là, etc. Et qui du coup au quotidien sont extrêmement lourdes et qui sont des normes notamment adaptées aussi à des systèmes très industrialisés quoi. Et donc il faut qu'on entende aussi ce ras-le-bol par rapport à ça. Et après c'est vrai que du coup la FNSEA elle est plutôt derrière à profiter de ce ras-le-bol là pour aussi faire passer des abaissements de normes qui ne profitent que à l'agro-industrie, parce que en réalité les paysans et les paysannes c'est quand même les premiers touchés quoi, quand c'est nous qui mettons les pesticides. Et quand moi je connais aucun paysan qui le fait par plaisir quoi, quand se retrouver face au pulvérisateur avec le bidon avec Watmill sigle de mort etc. Sûr. En vrai on se sent mal quoi
pour l'avoir fait
etc. Donc il y a aussi quand même cette fausse idée que les paysans ont envie de bourriner en pesticides etc. Il y a clairement un sujet, et c'est vrai que nous on porte que l'abaissement des normes pour nous c'est une question en priorité de santé des paysans et des paysannes, notamment sur l'environnement quoi, et c'est là qu'on a notre place en tant que syndicat. Sur la reconnaissance des maladies professionnelles on fait un gros boulot, et notamment avec les syndicats de salariés etc.
Et si je peux ajouter une petite chose, c'est que cette question-là se poserait complètement différemment si on posait aussi sur la table la gravité du dérèglement climatique. Parce qu'en fait, abaisser les normes environnementales, c'est rendre l'agriculture encore plus fragile face au dérèglement climatique. Et ça, c'est suicidaire. Mmh. Si on veut que l'agriculture française demain soit encore capable de produire, il faut changer les modes de production pour la rendre liée à l'environnement et résiliente face au dérèglement climatique. Et ça, c'est surtout pas en abaissant les normes environnementales.
Oui, c'est le cercle vicieux. Donc là, on voit dans le projet d'orientation agricole, justement, on a baissé certaines choses, notamment sur les pesticides et notamment le glyphosate aussi, un peu de recul, justement, des normes environnementales dans ce projet.
Réintroduire des pesticides non nicotinoïdes, faciliter l'agrandissement des élevages industriels.
Qui va à l'encontre, en fait, d'une forme de bon sens pour justement avoir un système.
Faciliter l'irrigation industrielle, l'irrigation massive, ça profite qu'à quelques gros agro-managers. Ce n'est pas les petits paysans de la conf qui bénéficient de l'irrigation, des bassines d'irrigation. Quoi.
Il ne nous reste pas beaucoup de temps, hélas, mais en plus, j'ai tellement de questions à vous poser. Quoi. Donc, on va essayer de. Alors, je vais essayer de me concentrer sur. Désolée pour les questions qui vont arriver, parce que là, il faut qu'on parle de trucs. Donc, le projet de loi agricole. L'examen avait été interrompu en 2024 après la dissolution de l'Assemblée nationale, puis la censure du gouvernement Barnier. Ce projet de loi agricole fait, je cite, « de la souveraineté alimentaire un objectif structurant des politiques publiques ». Sauf que donc, on disait, c'est assez catastrophique ce projet de loi en termes environnementaux, justement au nom de cette souveraineté qui devient, je cite encore, « un intérêt fondamental de la nation ». C'est quoi ? Donc, Thomas, tout à l'heure, tu as défini la souveraineté alimentaire. Jacques, on parlait aussi du dévoiement, justement, de ce terme souveraineté alimentaire. Est-ce qu'on est bien parti pour l'atteindre, cette souveraineté ? Oui, alors, j'ai l'impression que non. Et à quel prix, en fait ?
En fait, pour atteindre la logique, pour respecter la logique de la souveraineté alimentaire telle qu'elle a été définie par la Via Campesina, qui est donc un syndicat, on n'a peut-être pas précisé tout à l'heure, c'est un syndicat mondial dont la Confédération Paysanne est l'adhérent français, c'est à ma connaissance le plus grand syndicat en nombre d'adhérents de l'histoire de l'humanité, c'est pas rien quand même. Ça donne aussi espoir en termes de dynamique du monde paysan à travers le monde. Mais donc cette définition qui a été faite par la Via Campesina a été reprise dans la déclaration des Nations Unies UNDROP. Donc c'est quelque chose qui est internationalement défini. Et la définition qu'on trouve dans la loi d'orientation agricole, c'est pas du tout ça. Donc c'est une trahison, parce que c'est une définition internationale, la France ne respecte pas cette définition. Ce que vise la France là, c'est pas du tout d'aller vers une autonomie à l'échelle des sociétés, c'est-à-dire le droit des sociétés à définir leur agriculture et leur relation à leur territoire.
C'est un peu démocratique,
voilà,
finalement.
Qui est en fait une logique de
droit à l'alimentation.
Droit à l'alimentation, exactement. Là, ce qui est dans la loi, c'est uniquement... un souverainisme agroalimentaire dans l'intérêt de l'économie agroalimentaire de la France. Donc on va continuer,
et de l'export, justement. Voilà,
donc on va continuer à importer du gaz russe ou kazakh pour fabriquer des engrais azotés. Donc on va être complètement dépendant de l'étranger. Donc ce n'est pas du tout une souveraineté on va être complètement dépendant de l'étranger en engrais azoté. On va continuer à importer massivement du soja d'Amérique du Sud pour alimenter nos bétails hors sol ou semi-hors sol. Donc on n'est pas du tout dans une logique de souveraineté alimentaire. Faire une souveraineté alimentaire, ça voudrait dire s'émanciper des engrais azotés, ça voudrait dire cultiver des légumineuses, ça voudrait dire redessiner l'élevage dans le territoire français en le réduisant en nombre pour ne pas importer d'aliments, etc. Donc il y a plein de choses qu'on pourrait faire, mais que la loi ne fait pas.
Thomas, tu voulais réagir ?
Oui, bah c'est sûr que c'était une bataille qu'on mène depuis longtemps avec le ministère, hein, qui a voulu à un moment inclure aussi l'autonomie agro-énergétique dans la définition et pour hein, du coup, de ce fait-là, permettre le développement de la méthanisation, de l'agrivoltaïsme, donc photovoltaïque au sol avec 2-3 animaux pour faire joujou en dessous. Forcément, en fait, vu que le mot est entré un peu dans le langage courant, il y a une bataille sémantique claire qui s'est faite et qui est clairement pas terminée. Et que, effectivement, la Via Campesina, qui est à l'origine de ce terme-là, fait tout pour empêcher qu'il soit dévoyé. Quoi.
Il y avait juste une question tout à l'heure de Son Ayahuasca qui demandait comment arrivez-vous, bon, ça c'est pour Thomas, comment arrivez-vous à intégrer les normes environnementales, environnementales, pesticides, etc. Est-ce qu'elles s'opposent avec l'idée d'une juste rémunération ?
Clairement, il ne faut pas qu'elles s'opposent. Pour l'instant, disons qu'on est un peu face à un plafond de verre en termes de développement d'agriculture paysanne, bio, qui est labellisé, etc. Quoi. Parce que il y a cette question d'accessibilité à l'alimentation. Nous, on se rend bien compte que nos clients et nos clientes dans nos magasins, sur le marché, etc., c'est plutôt des personnes qui sont de la classe moyenne et supérieure et que malheureusement les pauvres n'y ont pas accès à nos productions.
Oui, les AMAP, c'est le même, hein, c'est ça.
Oui, et que du coup on est face à une alimentation à deux vitesses et que il faut bien comprendre que pour pouvoir se rémunérer en agriculture paysanne, on est un peu obligé, enfin beaucoup d'entre nous, utilisons des niches économiques quoi, qui est du coup les circuits courts, etc., et qui du coup cible une certaine population qui a de l'argent et que par définition cette niche économique elle n'est pas extensible à l'infini et que du coup si on veut déplacer ce plafond de verre en termes de développement de l'agriculture paysanne, il va falloir réfléchir à une redistribution massive de la richesse et ce sera du coup l'objet de ta prochaine émission sur la sécurité sociale de l'alimentation qui est une revendication qui a été à l'initiative de paysans et de paysannes de la Confédération paysanne et du CIVAM, etc., et qui, à notre sens, répond à énormément d'enjeux, que ce soit en termes d'accessibilité à de l'alimentation, mais aussi de solvabilité du marché permettant une juste rémunération des paysans et donc une installation massive, etc.
En fait, cette question-là, moi, j'aime bien le présenter sous l'angle, pour sortir justement, arrêter de se faire piéger par les mots de nos adversaires, c'est qu'en fait, pourquoi ces productions paysannes, bio, etc. sont plus chères ? C'est tout simplement parce que les paysans qui font ça, qui ont ces pratiques-là, ne répondant pas aux attentes du modèle qui domine, subissent des distorsions de concurrence. C'est d'énormes distorsions de concurrence dans l'accès aux aides, les prêts bonifiés, les aides de la politique agricole commune, etc. Donc, sur plein de domaines, il y a des distorsions de concurrence. Et en fait, ils compensent cette distorsion de concurrence en vendant plus cher. Et évidemment, ça n'est pas viable à long terme. Le but, ce n'est pas de produire pour les riches.
Il faut compenser les coûts de production, en fait, c'est ça.
Et donc la seule solution, c'est de remettre à plat la réalité des coûts de production. Donc, soit ça peut se faire par la puissance publique qui va organiser le système d'aide pour qu'elle soit réellement rémunérateur des services rendus, soit, c'est aussi la logique qu'on a à Agir pour l'environnement, de travailler dans ce domaine-là maintenant, c'est de dire, à défaut d'avoir des puissances publiques qui soient prêtes à agir à ce niveau-là, eh bien, essayons d'agir à l'échelle des consommateurs pour rendre l'alimentation de qualité paysanne bio accessible à tout le monde. Et il faut travailler. Enfin, moi aussi, j'attends avec impatience la prochaine émission.
Ah ben, vous regarderez avec plaisir. On parlait d'argent, mais ma question, donc je vais rebondir sur ce que vous venez de dire tous les deux. Ma question à 1 milliard, elle est pour Jacques. Est-ce qu'on peut nourrir le monde sans agriculture intensive, voire avec uniquement de la bio ?
La réponse est oui pour les deux, sans aucune hésitation. En fait, aujourd'hui, on a un corpus extrêmement robuste d'études scientifiques qui le démontrent. À l'échelle mondiale, pour la bio, ça fait très longtemps qu'on le sait. Globalement, il faut savoir qu'à l'échelle mondiale, on produit 50% de plus que la consommation nécessaire pour nourrir l'humanité.
Oui, on sait que ce n'est pas la disponibilité le problème, mais l'accessibilité.
C'est l'accessibilité. La fin d'un monde, c'est un problème de pauvreté. Et donc, il n'y a pas de problème de production. Si on prend le blé en France, par exemple, 60% du blé va à l'alimentation du bétail. Si on réorganise le bétail pour qu'il soit à l'herbe, on n'aura plus ça. Et 40%, dans les 40% qui restent, la moitié est exportée pour la spéculation internationale des plus grosses fermes, à l'international des plus grosses fermes. Et dans les 20% qui restent, il n'y en a même pas la moitié qui va réellement, enfin à peu près la moitié, qui va réellement au pain. Donc, sur toutes les productions, on peut faire ce genre de calcul. On a une énorme marge en termes de capacité de production. Et il y a même des études aujourd'hui, par exemple, de Solagro à faire 2050, ou de l'IDRI à l'échelle européenne, l'étude TIFA, T-Y-F-A, qui démontre qu'on peut sans problème nourrir l'Europe, par exemple, en étant 100% bio. Et en l'occurrence, c'est l'Europe le plus dur. Parce que pour le reste du monde, c'est beaucoup plus facile de nourrir en bio, puisque dans le reste du monde, le modèle conventionnel qui a prétendument de si gros rendement n'a pas de si haut rendement dans le reste du monde. Il n'y a qu'en Europe qu'il a vraiment marché. Donc dans le reste du monde, passer du conventionnel à la bio, ça ne fait pas bouger les rendements, en fait. Voire ça les augmente dans plein de régions. Le programme des Nations Unies pour l'environnement a montré qu'en Afrique, le passage au bio double les rendements. Par contre, en Europe, ce n'est pas vrai. Mais en Europe, même avec la particularité d'un modèle conventionnel qui a des formidables rendements tant que le climat ne s'effondre pas, même avec cet idéal théorique qu'on arrive encore à maintenir, on peut passer en bio et nourrir l'Europe. Donc ce n'est pas un problème. Le problème, il est vraiment politique.
Il me reste quelques questions, je vais essayer de faire rapidement. Et vous aussi, du coup, malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps. Je veux pas parce que Jacques, il a un train à prendre. Jacques, il retourne en Ille-et-Vilaine, donc on ne va pas lui faire rater son train à Montparnasse. Une question sur donc, la loi Egalim sur la bio. On est d'accord que c'est du grand n'importe quoi. Les objectifs ne sont absolument pas atteints. Sur les prix minimum garantis aux agriculteurs, c'est pareil. On n'y est pas du tout.
Il n'y a rien sur le rémunération.
Il n'y a rien là-dessus. La Conf Paysanne milite pour un revenu paysan. Thomas, ça consiste en quoi un revenu paysan? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement?
Pour nous, le revenu, il est intimement lié au prix de nos productions. Et donc, la bataille, elle se fait comment obtenir ce prix minimum garanti. Nous, on se bat pour un prix minimum garanti qui doit comporter plusieurs choses. C'est nos charges liées à la production. Notre rémunération, que nous on souhaite que ce soit au minimum un SMIC, mais pour que ce soit vraiment l'idée d'un prix minimum et dans l'idée que ce soit possible d'avoir plus. Et la troisième chose qui est extrêmement importante, c'est notre couverture sociale. On doit être capable de payer des cotisations sociales parce qu'en réalité, ce n'est pas possible de continuer à avoir des retraites de misère comme aujourd'hui. En cas d'accident du travail, il faut savoir qu'on a des indemnités de 21 euros par jour. Donc, ça correspond à peu près au quart de ce que pourrait nous payer, voire au cinquième de ce que pourrait nous coûter un salarié ou une salariée pour nous remplacer. Donc aujourd'hui, il y a cette question qui est hyper importante de la protection sociale. Donc il y a cette revendication du prix minimum garanti qui doit être liée à des outils de régulation du marché international pour éviter d'être en concurrence sur le marché international. Et nous, on a des propositions de prix minimum d'entrée qui sont des propositions plutôt internationalistes en solidarité avec les travailleurs et travailleuses des pays exportateurs. Et ensuite, il faut aussi une répartition des volumes de production.
C'est-à-dire ?
Si on pose un prix minimum garanti, rien ne n'empêchera quelques gros agro-industriels de s'emparer de des marchés et du coup de s'accaparer l'ensemble des outils de production. Donc d'ailleurs, c'est l'un des premiers principes de l'agriculture paysanne, c'est la juste répartition des volumes de production dans l'optique d'être des paysans et des paysannes nombreuses sur les territoires.
Une forme de plafonnement, quoi.
Oui, en fait, exactement comme ce qui se passait avec les quotas laitiers il y a encore quelques années, c'était il n'y a pas si longtemps. On ne pouvait pas produire au-delà d'un certain quota et ça permettait du coup de maintenir des éleveurs et des éleveuses nombreux. Et du coup, aujourd'hui, depuis que ces quotas ont disparu, il faut voir à quelle vitesse le nombre d'éleveurs a chuté. C'est quelque chose d'absolument effrayant. Et donc, nous, évidemment, on se dit qu'il y a une urgence à remettre aussi ces outils de régulation et de redistribution des volumes de production.
Et on pourrait aussi, alors on n'a pas le temps, mais reparler d'une refonte de la PAC, hein, la politique agricole commune, qui est inefficace et qui profite effectivement parce que c'est payé à l'hectare, c'est subventionné à l'hectare, aux énormes exploitations, et justement à celles qui emploient le moins de gens et le moins de salariés et le moins de paysans, donc qui tuent ce monde paysan finalement. Les paysans dont on sait qu'ils sont très subventionnés malgré tout, ne gagnent pas correctement leur vie. On a aussi des écarts de revenus énormes dans cette profession, qui sont parmi les plus grands écarts en France en termes de vraiment de comparaison. Le surendettement des agriculteurs et agricultrices aussi, on pourra en parler. Je vous conseille de lire le livre « Silence dans les champs » de Nicolas Legendre, qui a été prix Albert Londres 2023, en tout cas pour... Il parle beaucoup de la Bretagne, mais pour comprendre aussi ce surendettement et puis le remembrement, enfin, c'est très intéressant pour parler justement systémique et de voir où est-ce qu'on en est aujourd'hui, à cause de quoi on en est aujourd'hui. Pour finir, ma dernière question, Jacques, si vous aviez une baguette magique pour faire passer trois lois, et vous aussi Thomas, vous changeriez quoi? Ce serait quoi? Très rapidement, trois lois.
Bah d'abord, la sélection paysanne adaptative et évolutive.
Donc on parle des semences.
Voilà, sortir d'une sélection centralisée pour des logiques industrielles standardisées et massifiées, et aller vers une sélection adaptative au terroir. Hein. C'est pas, on n'utilise pas les variétés anciennes parce qu'on a une nostalgie de l'ancien. On utilise les variétés anciennes parce que c'est celles qui ont encore une capacité d'évoluer et une diversité génétique. Mais après, on les fait réévoluer avec le monde d'aujourd'hui, évidemment, et le monde
de
demain.
Oui, on fait comme on faisait bien avant, c'est-à-dire que les paysans sélectionnent eux-mêmes et ont le droit de réutiliser leurs semences qu'ils sélectionnent.
Et ça, c'est la meilleure façon de s'adapter au dérèglement climatique et à plein d'autres choses aussi. Ensuite, c'est déspécialiser les territoires. Donc, par exemple, en matière d'élevage, il y a beaucoup trop d'élevage en Bretagne et il n'y en a pas assez, en fait, dans les zones de culture si on veut pouvoir se passer d'engrais et de pesticides. Donc, on a besoin de redessiner le paysage. Et là, il y a des lois, on peut passer des lois sur l'autonomie. Enfin, d'ailleurs, il y a des projets qui existent aujourd'hui de lois en matière d'autonomie en légumineuses, réduire donc la quantité de viande qu'on va manger en face. Enfin, voilà. Toute une loi sur la question de l'autonomie du territoire en matière d'élevage. Et alors je n'ai pas forcément de troisième loi en fait.
C'est pas grave.
C'est deux là déjà. J'aurais
c'est pas
beaucoup.
Mal déjà.
Enfin, moi, si je pouvais, alors c'est pas tellement une loi, mais le troisième élément que je mettrais en avant, c'est en termes d'accompagnement technique, c'est de mettre des gros moyens pour toute la recherche sur les cultures associées, c'est-à-dire pouvoir mélanger plusieurs cultures en même temps dans la même parcelle, parce qu'à la base, c'est vraiment ça qui permet la plus grosse production de biomasse, quelles que soient les conditions climatiques changeantes, et donc qui permet de nourrir bien le monde. Et c'est beaucoup plus respectueux de l'environnement.
Et sur la bio, vous feriez une loi parce qu'alors c'est la crise là.
Oui, alors, oui, vous avez raison, j'aurais pu mettre en troisième loi une loi de soutien à la bio qui.
Deux mots sur la crise de la bio d'ailleurs.
Alors sur la crise de la bio, en fait, c'est une crise qui est due à la fois à un problème de fond, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de soutien public à l'agriculture bio depuis plusieurs années. Depuis Macron, hein, il faut le dire, c'est très clair, il a arrêté le soutien à la bio. Et ça crée deux phénomènes terribles. C'est un, évidemment, la rentabilité des fermes bio a baissé, mais ça crée aussi un effet d'insécurité terrible pour les paysans. Les paysans qui envisageaient de passer en bio ou ceux qui venaient de passer en bio, comment ils font? Et même quelqu'un qui n'est pas encore passé en bio mais qui pouvait penser le faire, il a envie de savoir où il va. S'il voit que c'est abandonné par les pouvoirs publics, il ne va pas essayer. Et puis le deuxième...
Oui, il y a une forme de précarité, dans la vie quotidienne, de tous les jours.
Complètement.
Quoi.
Et puis, il y a une cause, alors en fait, il y a trois grands domaines de cause, parce qu'il y en a plein, mais un deuxième grand domaine qui a eu un travail de sape de l'agro-industrie, d'éditorialistes, etc., pour saper l'image de la bio. Et c'est très clair, la profession bio européenne est unanime là-dessus. La bio a atteint 10% en Europe aujourd'hui, elle fait peur. Elle fait peur à l'agro-industrie. Tant qu'elle était en dessous, c'était une niche, comme tu disais, c'était côté... elle sortait pas de sa niche, donc ça allait. À partir du moment où elle commence à en sortir, il faut l'abattre. Et puis, il y a un troisième élément, c'est les grandes surfaces qui ont massivement déréférencé leurs produits bio, enfin baissé le nombre d'offres de produits bio en magasin en 2021. Et c'est ça qui a provoqué, en fait, la baisse de consommation, d'abord dans les grandes surfaces, puis ensuite par un effet de panique et d'entraînement, parce que les médias ont fait comme si c'était partout, alors que c'était au départ que dans les grandes surfaces. Ça a créé aussi un effet de panique. Après, il y a l'inflation, il y a plein d'autres problèmes, mais ça, c'est des problèmes conjoncturels que normalement, on devrait pouvoir résoudre. Oui. Et donc, si je pouvais agir sur la bio aujourd'hui à très court terme, ça serait faire appliquer la loi Egalim pour qu'il y ait 20% de produits bio dans les cantines, mais l'ensemble des cantines, y compris les EHPAD,
toutes les restaurations collectives, les prisons, les transports en commun,
etc.
Enfin, les transports.
Voilà. Et notamment les lieux où il est important de bien manger, je pense aux EHPAD et aux hôpitaux.
Aux écoles.
Et les écoles, bien sûr, mais ça, c'est prévu. Et puis, en attribuant enfin à nouveau des aides pour rémunérer les services rendus par les agriculteurs bio. Et en fait, l'autre élément qui est pour moi très important, mais je ne vais pas en parler, puisque c'est le sujet de la prochaine émission, c'est la sécurité sociale de l'alimentation, qui pour moi doit être une sécurité sociale de l'alimentation bio.
Et oui, mais c'est parfait, vous me faites des transitions magnifiques pour l'an prochain. Très rapidement, Thomas, si vous avez trois lois, trois vœux, trois souhaits.
Je les ai déjà dit. Évidemment, il faut commencer par la question du revenu, donc le prix minimum garanti qui soit absolument protégé, qu'il y ait une juste rémunération et répartition des volumes de production. En deux, je pense qu'il y a la question du foncier qu'on a déjà aussi, et donc du coup instaurer une nouvelle loi foncière qui priorise réellement l'installation et le partage de notre outil de production principal, hein, parce que notre outil de production c'est la terre. En trois, bien sûr, la sécurité sociale de l'alimentation, mais en revanche je ne parlerai pas de diriger vers la bio, etc., mais je mettrai plutôt en avant l'aspect démocratie alimentaire que cette proposition amène et que qui est selon nous la force aussi de cette proposition, c'est de dire qu'on va permettre aux citoyens et aux citoyennes de choisir leur alimentation en connaissance de cause. Quoi.
De reprendre le pouvoir sur notre alimentation et sur le système justement qu'on dénonce. Et puis on a bien compris, pour que ça change, il faut accompagner les paysans et les paysannes, c'est le plus important. J'ai juste deux recommandations à faire, j'ai déjà fait la première, Silence dans les champs, édition Artaud. Il y a aussi un documentaire de L214 sur la FNSEA, qui est très bien. Alors même si vous n'êtes pas antispéciste, le documentaire est super, c'est vraiment sur l'agriculture intensive. Il s'appelle d'ailleurs FNSEA, Syndicat de l'agriculture intensive. Je vous conseille vraiment de le voir, il est super ce docu. Et je rappelle donc Jacques Capla, votre livre qui vient de sortir vraiment il y a genre une semaine, quelque chose comme ça. Agriculture industrielle, on arrête tout et on réfléchit, édition Rue de l'Échiquier, édité avec Agir pour l'environnement. Le voici, vous pouvez vous le procurer un peu partout. Je vous remercie beaucoup, Thomas Gibert, maraîcher en Haute-Vienne, secrétaire national de la Conf Paysanne, Jacques Capla, agronome, anthropologue et auteur. Vraiment, c'était super. Merci à tout le monde dans le chat. Merci pour vos questions. Je suis désolée de ne pas avoir pu en prendre plus que ça. Mais on ne peut pas rallonger, sinon le train de Jacques va partir sans lui. Et je regarde l'écran et pas la caméra. Mais je vous dis merci. Vous êtes vraiment nombreux. Je suis toujours très contente d'animer cette émission. Vous êtes au rendez-vous, au poste. Et donc, on voit le mois prochain pour parler de sécurité sociale, de l'alimentation. Salut.
Mes amis, nous sommes sur Hopost.fr. Abonnez-vous, les amis, c'est David Dufresne. Abonnez-vous, c'est important. Bon, la technique, c'est pas toujours ça. C'est artisanal, on est entre nous. C'est Hopost, Hopost.fr.
Attention, oui. Ça va être dans le clip.
Postez-vous l'abonnement. Non, abonnez-vous à Hopost.
J'encourage, faites un don à Hopost. Ah non, c'est là la caméra.
Adonnez-vous Hopost. Adonnez-vous Hopost.
Et faites des dons à Hopost. J'espère que tout le monde dans le chat, que tout le monde ici fait des dons à Hopost. Il faut donner
des
l'argent
dons,
pour que ça existe.
Amis du café, amis de la police, adonnez-vous Hopost.fr. Hopost.fr. Adonnez-vous.
On vous remercie tous pour vos dons, c'est cool.
Désarmer les récits, c'est important. Ça passe par quoi? Ça passe par muscler les médias indépendants. Voilà, soutenir Hopost.
Abonnez-vous! Donnez plein d'argent.
Il a raison, abonnez-vous à Hopost et à Mediapart, ou deux.
Abonnez-vous!
N'oubliez pas, on a besoin de dons et de donateurs. Merci beaucoup.
Hopost.fr, y'a pas mieux.
Ah, on se moque de moi là. Bompard soutient Hopost, mais devant la mauvaise caméra. Celle-là, elle est bonne ou pas? Faites un don à Hopost, faut pas que ça soit qui reste. Donc je disais, il faut bien que vous provoquiez du débat, il faut provoquer du sujet, pour provoquer du sujet, il faut créer de la conflictualité.
Mais comment je vais rester indépendant si Bompard, il demande aux gens de faire un don?
Oh, ouais, c'est vrai ça.
Tout ça n'existe que grâce à vous, parce qu'on est indépendant et on ne vit que grâce aux dons. Donc voilà, merci.
Et abonnez-vous.
Abonnez-vous Hopost.fr.
Bravo. Bravo. Abonnez-vous Hopost.fr.